Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mais moi, ma chounette, je voyais tous les gens qui partaient à la plage avec leur tabac. Moi, je me suis dit, bah, je vais pas rester là.
Bonjour.
Ça, c'est un vrai bonjour de rentrée, ça. C'est un vrai bonjour avec énormément d'énergie, comme on les aime. On a quand même effrayé au maximum Félix. Oui, car nous sommes en compagnie de... Non, j'ai pas d'abord dit en compagnie de qui on était avant de savoir qu'on est avec Félix. Même si c'est le clou, voilà, de Mademoiselle, finalement, Félix, ces derniers temps, en tout cas.
Et ça fait du bien.
Alors, vous l'aurez remarqué, je suis en compagnie de Kalindi.
Bonjour.
D'Ariane.
Bonjour. Hein.
Et de Anthony, qui Bonjour. N'a pas souhaité s'exprimer sur la présence de Félix, visiblement.
Si, je me suis exprimé.
T'aimes les chiens, Anthony, ou pas ?
Je suis pas sûre, moi.
Si, ça va.
Ah ouais ?
Ça va. Ah, c'est pas un oui franc. Hein.
C'est un oui. Je préfère les chats, mais c'est un oui.
Bon, et Félix, donc, qui est, voilà, cette petite boule de poils sur pattes. Je sais même pas ce que c'est comme espèce.
C'est vrai, c'est parce que c'est comme race ?
Non.
C'est un teckel, tout simplement.
C'est un teckel, voilà.
J'étais avec un teckel hier, d'ailleurs.
Arrête. T'étais avec un teckel tout seul.
Non, ouais.
Mais t'as
je faisais une présentation dans une librairie et il y avait.
Ah oui.
Avec un co-auteur qui s'appelle Florent Manelli pour le livre PD. Et en fait, le chien s'appelait Scratch et je l'adore car il est tout le temps là aux rencontres. Et du coup, c'est ma mascotte, il est sur mes genoux et il me déstresse.
Il était venu quand tu l'avais reçu.
Ah oui, il était venu, oui. Pardon.
Il est noir et feu comme ça ou
Exactement.
Il est tacheté comme Jacquemus et j'avoue, j'adore son
non,
chien.
Non, il est comme ça.
Ok.
Vous avez des rêves chiens que je n'ai absolument pas.
Moi, je suis vraiment que pour le rien, je comprends.
Pareil.
Donc voilà, Félix qui est parmi nous. Et d'abord, on est ravis de vous retrouver, ou peut-être vous êtes ravis de nous retrouver parce que vous nous avez attendus tout l'été. Nous, en tout cas, on est heureux, on est heureuses d'être là pour ce premier épisode de la rentrée de LMK. Et j'ai une question pas du tout originale à vous poser à tous les trois. puisqu'on revient de vacances, qu'on est tous absolument en forme et qu'on a passé des moments formidables, en tout cas, j'espère.
Mais
si,
mais
Anthony,
Anthony c'est
ça
le seul
vacances,
à ne pas être parti en vacances. C'est vrai,
c'est
ok, t'as raison.
Infernal.
Ça s'appelle la précarité, voilà.
Non, mais il faut quand même que tu partes, Anthony. Je le dis en tant que rédac-chef de Mademoiselle. Là, tout le monde m'entend, tout le monde m'écoute. Il faut que tu prennes des vacances. D'accord. Qu'on se le dise. Et la question est la suivante. Quel est votre souvenir de vacances le plus what the fuck ? Oui, Ariane, allez, allons-y.
Alors
mais
franchement,
la pauvre Ariane.
Je dois réagir, je dois réfléchir en deux secondes. Mais j'en ai un qui me vient spontanément comme ça. J'avais 16 ans, c'est peut-être la première fois que je partais en vacances avec mes potes. Et on est allé dans cette localité bourgeoise qui est Saint-Palais-sur-Mer, à côté de Royan. Attends, j'ai pas envie de dire une connerie, c'est où ? C'est en Charente-Maritime, je crois. Il se trouve que donc on avait 16 ans à l'époque et on était allé attention ça va être long dans la maison de vacances d'une de mes amies du lycée et elle avait ses habitudes là-bas, elle y venait depuis qu'elle était toute petite et depuis qu'ils avaient genre 14 ans, ils allaient là-bas en boîte. Sauf que, comme on était mineur, il fallait absolument la présence d'une personne majeure avec nous pour signer une sorte de décharge. Enfin, je ne sais pas concrètement. Voilà, mais il fallait qu'une personne majeure accompagne chaque personne mineure pour qu'on puisse rentrer. Et moi, plus on me parlait de ce truc, elles étaient hyper hypées, tout le monde avait hyper envie d'y aller. Plus on me parlait de ce truc, je me disais, putain, j'ai pas envie d'y aller, je sais pas, ça me dit rien. J'ai pas envie d'aller dans une boîte alors que je suis mineure, je vois pas pourquoi on attendrait pas 2 ans. Je sais pas, ça me disait rien.
La casseuse d'ambiance, quoi.
Mais c'est pas ça, c'est que je me disais, je sais pas trop si j'ai envie d'y aller avec eux. En plus, désolé, ça m'avait l'air un peu ringard, mais bon, ça c'était juste mon avis.
La casseuse d'ambiance snob.
Et donc voilà, plus les jours passaient, plus j'essayais de leur dire, je sais pas si je vais venir avec vous, mais ce qui est pas grave. Enfin, moi, je pouvais juste faire ma soirée ailleurs. Genre, il y avait d'autres potes qui étaient avec nous, en plus, qui, par hasard, avaient aussi une maison, enfin voilà, et qui avaient pas forcément envie d'aller en boîte. Bref, vient le soir S, le jour J. Et effectivement, j'avais vraiment pas envie de venir. Sauf que moi, la lâcheté originelle, j'ai pas trop réussi à leur dire, bah les gars, je vais pas venir avec vous. Et du coup, je me suis un peu enfuie, sans rien dire à personne. Quoi ? Du before. parce qu'il y avait donc ce groupe-là qui voulait aller en boîte, qui était en train de faire un before dans la maison, et un autre groupe qui faisait la soirée sur la plage, et voilà. Et en fait, je me suis lâchement enfuie du before des gens qui allaient en boîte pour aller sur la plage, où on ne m'a donc pas retrouvée, puisque les gens qui allaient en boîte n'étaient pas au courant. Et le fait est que quand j'ai voulu revenir à la maison, bah la maison était fermée, parce que tout le monde était en boîte. Donc j'ai passé la nuit sur la plage.
Non.
Attends, mais t'étais partie disparue, ils sont quand même allés en boîte ?
En fait, ils m'ont appelée et tout. Et moi, je te dis, j'étais hyper lâche. Et du coup, j'avais pas répondu.
Mais elles se sont pas inquiétées, genre...
Ben...
C'est terrible en vrai, enfin...
Non, enfin...
J'étais encore amie.
Peut-être que, parce qu'en vrai, les gens avec lesquels j'étais sur la plage, on se connaissait tous. Hein. Donc probablement que quelqu'un, je me souviens pas très bien, c'était il y a longtemps, c'était il y a presque 10 ans, quelqu'un avait dû dire par message aux autres, Ariane est avec nous. C'est comme ça que ça avait dû se passer.
J'espère, c'est aussi bien inquiétant.
Ouais. Mais du coup, la maison était fermée et j'avais du coup dû passer la nuit vraiment sur la plage avec ces gens. Et ensuite, j'étais revenue vraiment à l'aube, comme une pauvresse. J'avais pas dormi, puis j'avais dû aller prendre mon train. Et en fait, tout le monde me faisait la gueule dans la maison, parce que du coup, j'avais prévenu personne, ce qui est pas correct. Tout le monde me faisait la gueule, donc personne s'était réveillé pour me dire au revoir, quoi. Enfin bref, non mais voilà, une expérience catastrophique. J'avais récupéré ma valise, j'étais partie en claquant la porte. Enfin, et oui, et surtout, les personnes majeures devaient m'accompagner en voiture à la gare. Sauf que comme tout le monde me faisait la gueule, personne m'a accompagnée et personne s'est réveillé pour m'accompagner
toute seule à la gare.
J'y suis allée en bus avec ma pauvre valoche là. Voilà. Mais finalement,
mais
je suis arrivée.
C'est une tristesse en fait,
mais
cette
oui.
anecdote.
Ouais, mais oui. J'ai pas trouvé d'autres anecdotes à What the Fuck. Donc ce sera
est-ce
ça.
Est-ce que t'as regretté ? Est-ce que tu t'es dit genre ah merde, bah j'aurais dû tant pis les suivre en boîte même
pas
si je voulais pas.
Et
non, t'étais quand même contente
d'aller.
Mon manque d'envie et dire j'aurais dû.
Oui, mais il se trouve que j'étais avec une amie qui était très comment dire
insistante.
Ouais, très insistante, c'était assez difficile pour moi de lui parler. Après, moi aussi, j'avais pas beaucoup d'aplomb à cette période de ma vie. Donc, j'ai préféré me taire plutôt que d'affirmer ma...
Et fuguer, en fait, parce que c'est littéralement ce que j'ai fait,
fugué,
en fait.
J'ai fugué à la plage de Saint-Palais.
Trop de trucs qui vont pas dans cette histoire. Mais quand ils sont partis en boîte, ils pouvaient pas répondre au téléphone ? Genre, tu pouvais pas les appeler, leur dire « Bonjour, j'aimerais rentrer dans la maison, est-ce qu'il y a un double des clés quelque part ?»
J'avoue que j'y ai même pas pensé, en fait.
T'étais mal, en
fait. Ouais, j'étais mal, je pense que je me sentais coupable, en fait.
Comme quelqu'un qui a fui,
ouais,
finalement.
Comme quelqu'un qui a fui.
Tu te sens pas très bien.
Surtout que, bon, mon amie m'accueillait chez elle et tout, et moi, je préférais ne pas les suivre dans leur soirée et partir sans rien leur dire. Enfin, ah non, il y a rien qui va dans cette histoire.
Et effectivement, t'es toujours pote avec eux ?
Pas du tout.
Bah tant mieux, franchement, pas parce que tout. Vraiment, si t'as peur de tes amis, si t'oses pas leur
ouais,
parler,
je suis d'accord.
Enfin, c'est pas
d'accord.
Les amis, en fait.
Je suis d'accord. Ouais,
après, non, à 16 ans, t'as peur de tout, souvent.
Ouais, mais là, quand même, avoir peur de dire, les gars, j'ai pas trop envie de venir avec vous, faut le faire, quoi. Mais bon,
il y a des trucs tellement plus simples qui viennent à l'esprit, genre simuler une gastro, enfin, tu vois, des choses si faciles, en fait.
C'est vrai.
Que de disparaître.
Sans
rien dire.
En attendant, sur la plage, j'ai quand même passé une super soirée avec les gens qui étaient là.
C'était bien amusé. Tes autres potes ou c'était des gens random rencontrés sur la plage ?
En fait, okay. Par hasard, d'autres gens dans le même lycée que moi avaient aussi une maison dans cette station balnéaire.
Ah oui.
Et voilà.
Mais t'as grandi où ?
Ça s'appelle la bourgeoisie.
Ça s'appelle la bourgeoisie. J'étais dans un lycée privé à Amiens qui s'appelle La Providence, qui est d'ailleurs aussi le lycée d'Emmanuel Macron, si ça vous intéresse.
Ah ouais ?
Voilà.
Oh là là.
J'étais là-bas à l'internat. Voilà, mon background.
Ok.
Oui, ça s'appelle la bourgeoisie, tout à fait.
Ok, et, là, et donc si tes anciens amis t'écoutent, là, qu'est-ce que tu leur dis ?
Je leur dis.
Pourquoi tu cherches les embrouilles ? Marie n'écoute pas.
Clairement pas, hein, mais je leur dis désolé, mais par contre, quand même, essayez de. Putain, j'ai une illumination. Il y a un truc qui s'est passé. C'est que j'avais essayé de dire que je voulais pas venir et la meuf qui possédait donc la maison avait envoyé un de ses potes à la plage pour essayer de venir me chercher.
Ah, donc il savait
dire...
que t'étais là.
Oui, je viens d'avoir une illumination. Et moi, j'étais déjà un peu bourrée. J'ai dit, non, je reste ici, désolée, je m'amuse beaucoup plus que dans votre boîte de merde. Bon, voilà. Ce qui n'était pas forcément malin, mais du coup, ouais, elle avait envoyé un de ses sbires pour essayer de venir me chercher à la plage. Bon. Une ambiance...
Si on devait tirer un enseignement de cette histoire, finalement.
Ne partez pas en vacances avec des gens auxquels vous n'osez pas parler, en fait.
Ouais.
Parce que sinon,
ouais,
c'est l'enfer.
De toute manière.
Voilà, sachez dire non dans la vie.
Hyper important. Ouais. Ok.
À mon histoire.
J'espère que tes vacances.
Vachement bien.
Oh là là.
Tes vacances cette année se sont mieux
passées. Vous savez, des vacances en famille, somme toute, c'est pas forcément non plus une bonne idée de partir avec sa famille, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut.
Ouais. T'es allé où ?
En Italie, ça c'était bien par contre.
Ah ouais, sympathique.
Trop bien, trop bien, trop bien. Kalindi, t'es allé où toi cet été ?
Moi cet été, j'ai, bah vous savez, je suis propriétaire terrienne. donc j'ai passé un mois de bourgeoisie dans ma maison de Nogent-le-Rotrou, où j'ai failli, j'aurais pu croiser le boss de Mademoiselle, Julien Cadeau, qui traîne souvent par là-bas,
ah
qui
ouais,
m'a conseillé une boulangerie, il m'appelle l'autre jour pour me dire je te conseille une boulangerie. Bref.
Il a testé.
Non, parce que je n'écoute jamais ce que dit la hiérarchie. C'est voilà.
De toute façon, tu l'as dans ton jardin finalement, dans ta
c'est
propriété.
C'est ça, je suis en. Je,
moi, attends, ça me bute. Il t'a appelé pour te dire, je connais une super boulangerie.
Non, il m'a appelé pour dire autre chose, mais il a commencé par me dire.
Et le très bon pain, c'est très important.
Oh, waouh.
Non, non, il m'a dit autre chose après, mais d'abord, c'était, sais-tu qu'il y a une nouvelle boulangerie qui est ouverte ?
Il la rend.
Et alors après, je suis allée en Espagne, chez mon mec qui est aussi propriétaire terrien. On dirait qu'on est très riche. Qui a un appart à Playa d'Aro, qui est une petite ville sur la Costa Brava, qui est pas très charmant mais sympa. Et après, j'ai passé un mois, le mois d'août, en Bretagne, mais je vous en parlerai sans doute tout à l'heure dans mon petit kiff. Mais tu veux que je réponde à what
oui,
the fuck,
oui,
c'est ça que
revanche, oui, voilà. C'est quoi ton souvenir de vacances le plus what the fuck ?
Alors c'est pas what the fuck, c'est juste pas très commun. Il y a une petite dizaine d'années, j'avais 20 ans, donc ça fait mal au cul. Ma mère avait un ex qui était et qui est toujours. Alors lui, il est chirurgien ORL, il a une troupe de danse au Japon, bon bref. Et à côté de ça, il opère des guépards et des lions l'été.
Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce délire ?
Tu viens d'inventer le personnage là.
Non, non, je te jure. Incroyable. Non, je te jure. Alors, c'est vraiment un personnage. Par exemple, il ne mange que des yaourts. Mais c'est vrai. Et depuis, genre, 40 ans. Bon, bref.
Il va mourir.
Mais sans doute. Sachant qu'il est médecin, bref.
Oula.
Et donc, l'été, il opère des guépards, des lions et plein d'autres animaux de la savane dans une réserve en Afrique du Sud qui s'appelle le Moholo Holo Rehabilitation Center.
Je connais cette histoire.
Et donc, moi, un jour, bah, j'ai dit ça à ma mère, comme j'aurais pu dire, j'ai envie de pisser, quoi. Je dis à ma mère, tiens, j'aime, parce que j'avais regardé Le Roi Lion. Et je lui dis, j'aimerais bien m'occuper des animaux sauvages. Elle me dit, mais attends, tu déconnes, mais Jean, il part dans 2 semaines. 2 semaines après, je suis dans un avion pour aller en Afrique du Sud avec l'ex de ma mère, m'occuper des guépards. Et en fait, alors bon, c'est compliqué, ça peut être sujet à controverse parce qu'il y a plein de centres en Afrique du Sud notamment qui font genre, ils font du bien aux animaux, ils les sauvent du braconnage. En fait, ils sont en bisbille avec des braconneurs. Enfin, c'est un magouille et compagnie, des trucs absolument infects. Mais il y a un site qui référence les lieux qui sont plutôt propres et le mien en faisait partie. Voilà, je préfère me dédouaner avant qu'on m'accuse de maltraitance animale en DM. Et j'ai passé plusieurs semaines dans ce centre. Et moi, j'y allais pour m'occuper des guépards, des lions et tout. Alors, en partie, j'ai contribué parce que je nettoyais leurs enclos, etc. Mais moi, on m'a attribué tous les animaux pourris. En fait, j'avais les vautours, j'avais une mangouste aveugle. J'avais que les animaux bah, pourris, quoi. Et j'avais les cochons d'Inde, ce qui n'est pas le truc le plus extraordinaire. Et en plus, c'était les cochons d'Inde qui étaient destinés à nourrir les mangoustes aveugles. Bref.
Ah,
c'est
horrible.
Oh là là. Bref. Et donc, mon souvenir le plus what the fuck, c'est quand je suis arrivée, mon ex-beau-père m'a dit, écoute, que je ne peux pas blairer par ailleurs, me dit, écoute, comme moi, je suis bien avec le directeur du centre, je peux te faire un truc un peu fun. Viens, on rentre dans la Jeep avec un ranger. Et là, on arrive devant l'enclos des guépards. Moi, c'était mon jour 1, je venais d'arriver. L'enclos s'ouvre, on rentre dans l'enclos. Et là, il me dit, c'est des grands parcs, vous voyez. Et là, il me dit, Kalindi, monte sur la Jeep. Il me dit, ah, il faut que je sorte de la bagnole alors qu'il y a le guépard. Il me dit, mais oui, t'inquiète, il est gentil, tu vois, c'est le guépard d'ici. Enfin, voilà. Et donc, je suis montée sur le dos de la Jeep. Et là, il m'a mis une gamelle de foie de porc à côté de la tête. Il a sifflé. Et il y a Shenandi, le guépard, marrant parce qu'il s'appelle presque comme moi, qui a commencé à courir comme un à quelques lettres près.
C'était un peu ton frère spirituel.
Exactement.
Finalement.
Et commence à courir comme un malade, monter sur le toit de la Jeep et commence à bouffer son foie de porc et en aller plein la tronche. Et là, il me regarde et il me lèche le visage.
Ah, superbe.
Et m'irrite le bout du nez, quoi, parce que c'est très rapide. Vous voyez,
ouais,
le chat, bon, bah, le guépard, c'est encore pire. Et là, il y a le ranger qui me dit, tiens, il me donne une brosse. Je m'aille Maybelline. Et il me dit, tiens,
vrai,
brosse le guépard.
What?
Et donc, je me dis, putain, il y a 24 heures, je regardais Secret Story.
c'est hilarant.
À Levallois-Perret. Et là, je brosse un guépard avec ma brosse. Je mets Maybelline comme ça, le guépard. Et c'était non, super, incroyable. C'était des vacances. Enfin, des vacances. En fait, c'était pas du tout des vacances parce que je me levais à 5h du matin pour m'occuper de la putain de volière. Bon, bref, j'avais vraiment tous les trucs nazes.
Mais t'étais bénévole.
J'étais bénévole. Ouais. Et donc, bah, je trimais toute la journée. Ouais. J'avais pas le droit de boire d'alcool, j'avais pas le droit de fumer de clope, ce qui constitue l'essentiel de mon activité. et puis, j'ai failli foutre le feu à la savane parce qu'évidemment, en fait, je voulais quand même fumer des clopes.
Ah oui.
Et un jour, je suis rentrée dans l'enclos du bébé rhinocéros, ça s'appelait Danny Danny, avec mon copain Tim Tim. Et donc, on a fumé des clopes, en fait. Et puis, j'éteins ma clope sur un truc sec qui prend un petit. Mais bon, c'était deux étincelles, on a écrasé avec le pied, puis c'était fini. Et c'était extraordinaire, ces vacances. Encore une fois, qui n'en était pas vraiment. C'était vraiment du bénévolat. Mais j'ai appris plein de trucs. J'étais avec les animaux sauvages toute la journée. J'ai découvert plein de choses sur moi, sur les bêtes. Je me suis fait plein de copains. J'ai appris plein de choses sur la condition des rangers en Afrique du Sud. Bah, notamment qu'en fait, quand ils s'engagent là-bas, pendant des années, ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux. Qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de relations amoureuses pour pas que ça les égare du centre. Et en fait, quand ils prennent... Alors, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y a 10 ans, en tout cas, ça l'était. J'ai appris plein de choses, c'était extraordinaire. Si vous voulez plus de renseignements, c'est le centre, c'est Moholo Holo Rehabilitation Center. Et si vous voulez me poser des questions directement en DM, j'y répondrai avec plaisir.
Wow, incroyable, c'est cette carrément what the fuck. Fin...
Ouais, bon, ouais, bah, oui. Ah non, c'est ça que je disais. Oui, les rangers. Donc, oui, bah, en fait, il y a un gars, il me racontait que, en fait, quand t'arrives et que tu t'occupes d'un guépard, comme c'est des animaux qui s'attachent très vite à toi. Tu peux pas juste partir parce qu'il y en a qui se sont laissés mourir en fait de tristesse.
Bah, ouais. Comme les chats. En
bah, fait. Comme les chats, exactement.
On en parlait,
Anthony, et bah, du coup, ce gars-là n'avait pas pu voir sa zouze depuis 6 ou 7 ans. Il se skypait tout le temps. Il se voyait une fois tous les ans et demi ou un truc comme ça. Enfin, c'était quand même hyper âpre. Et il y avait plein de nanas au centre qui tombaient amoureuses des rangers. Bah, parce que moi-même, j'avoue, bah, tu vois, ils s'occupent des guépards, ils s'occupent des. C'est un peu. Tu vois,
c'est
un peu.
Avec Danny Danny dans les enclos.
Mais non, Danny Danny, c'est le rhinocéros, non?
Dégoûte! Tu crois que je mettais assis sur sa corne?
Tim Tim, pardon.
C'est horrible. Oh non, Tim Tim, c'était un enfant à l'époque, quelle horreur. Et oui, donc tout le monde s'amourachait un petit peu des rangers, parce que c'est très impressionnant, tu vois. T'es là, tu sauves le monde entier. Enfin, on dirait que tu sauves la savane entière et tout. Et du coup, j'ai appris plein de trucs. Qui avait couché avec qui? C'était interdit. Wow. Et si on le savait, les rangers se faisaient virer et tout. Enfin, c'était incroyable.
Est-ce qu'il y avait des rangers femmes?
C'est ce que j'allais demander.
Oui, plein. Il y avait plein de femmes rangers, notamment une que je détestais. parce qu'en fait, je m'étais fait engueuler un jour parce que je rentre dans le dortoir des filles et je vois que ma couette, elle frétille. Et donc moi, je me dis, c'est une migale, putain de merde.
Quelle horreur.
Donc j'arrive, je soulève la couette. En fait, c'était un écureuil. Et en fait, j'avais laissé un paquet de gaufrettes au chocolat. Parce qu'on avait... Enfin, bon, je cache tout le temps de la bouche, j'ai trop peur de manquer. Donc j'avais caché des gaufrettes sous mon oreiller. Et le gars qui s'appelait Scratch, qui appartenait aussi... qui appartenait au centre, était venu et c'était goinfré de gaufrettes au chocolat.
Putain, sacré Scratch.
Et du coup, la ranger m'avait engueulé de fou en me disant « Mais ça va pas de laisser traîner des trucs, t'es au courant qu'on s'occupe d'animaux, tu sais que manger du chocolat, c'est pas bon pour eux, machin. » Bon, bref. Du coup, je l'ai évidemment détesté illico presto sans me remettre en question, car c'est ce que je fais. Et voilà. C'était mon histoire.
Incroyable.
Waouh, j'ai vraiment, adoré.
Merci.
Est-ce que tu as des news de tous les gens que tu as rencontrés là-bas?
Ouais, je suis restée en contact avec Tim Tim, avec qui je suis partie l'année d'après 6 semaines en Inde. Et c'était Chamé aussi. Et j'ai toujours ma copine Mia, qui elle habite à Dubaï. Voilà.
Ah,
voilà, je me dis comme ça.
Et ça t'a donné envie de refaire des trucs comme ça auprès des animaux sauvages?
Ouais,
ou...
mais maintenant que j'ai du pouvoir d'achat en payant pour rester dans un hôtel sympa.
Avoir un lodge incroyable.
Ouais, sans vraiment être avec 10 personnes pendant 6 semaines, j'ai passé l'âge en fait, franchement, j'ai besoin d'un petit peu, non pas de confort, parce qu'en fait, moi, tu me fous, non, peut-être pas dans une tente, mais enfin, avec le minimum syndical, je suis contente, mais c'est juste le pas avoir d'intimité, c'est ça qui est un peu plus compliqué, je trouve, mais sinon, je le referai avec grand plaisir, et d'ailleurs, non, alors, je peux raconter une dernière petite anecdote, rapidos, mais je crois que j'ai raconté ça il y a pas longtemps, dans 4 quarts d'heure aussi, un jour, j'avais un peu d'argent, je me souviens, ma mère m'avait donné un peu de sous, et je m'étais pris une nuit dans un lodge en plein cœur de la savane, avec toujours Tim Tim, et la Zouz, avec qui il était à l'époque, qui s'appelait Sarah, qui était une meuf du centre aussi, et on se dit, ouais, trop bien, à pouvoir boire une bière et tout, donc c'était vraiment le seul truc qui nous intéressait, en fait, et donc on était dans le truc au milieu de la savane, bref, on fait un peu la fête comme on pouvait faire la fête là-bas, c'est-à-dire on a écouté de la musique jusqu'à 21h. Et le lendemain matin, j'entends Alors bon, c'est pas très podcastique, mais j'entends des gros bruits contre la fenêtre. Je me réveille, je me dis putain, on se fait attaquer, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même la savane, il y a plein d'animaux. Et là, je vois des petits trous du cul de putain de babouins un peu plus devant notre fenêtre, je vous jure que c'est vrai, qui se faisaient caca dans les mains.
Quoi?
Qui attendaient que ça sèche. Et qui jetait sur les fenêtres. Et donc moi j'appelle le ranger, le grand ranger qui s'appelait Yann. Et je lui dis Yann, il y a des gars, enfin il y a des babouins qui nous jettent leur merde sèche à la tronche. Quid? Et il me dit ah oui ils peuvent pas blairer les touristes, c'est normal. Et j'étais là ah oui bah n'hésitez pas.
Tellement intelligent.
Mais je crois que c'est la partie de ton histoire que je préfère.
J'aurais dû raconter celle-là, c'est vrai.
Ils font pas ça dans Madagascar les singes aussi?
Ah c'est possible.
Il me semble. Hein,
mais Madagascar c'est des singes. C'est pas
des. Il y a des singes dans
Madagascar. Il y a tout.
Il y a pas des lémuriens aussi.
Oui, c'est ça, pour moi c'était les lémuriens qui
ont. Mais il y a aussi, quand ils sont dans le zoo, il y a des singes.
Ah oui, pardon.
Qui, je crois, jettent leur caca.
Il y a même des pingouins
touristes, hein,
qui font du surf.
Oui, oui.
Ou ça, c'est un autre film. Enfin.
C'est Happy Feet.
Incroyable, cette histoire.
Mais quelle est de fou.
Ok. Et toi, Anthony?
C'est très difficile de passer après ça.
Effectivement, je confirme. Hein,
j'ai très peu de vacances dans ma vie et je crois qu'il les a déjà toutes racontées dans LMK, donc vraiment, je suis dépourvue. Ce que je peux vous raconter, mais c'est même pas intéressant, hein. Récemment, je suis allée en vacances en Martinique avec une de mes meilleures copines, qui est mon ancienne colocataire. Et on était que tous les deux. Et en fait, on faisait n'importe quoi parce qu'on sortait tous les, chacun d'une rupture assez douloureuse. Et on était devenus hyper fusionnels et tout. Et on passait notre vie à faire de la randonnée. Et donc, tous les matins, on allait randonner pendant des heures. Et le soir, on allait chiller sur la plage, abandonnée avec des cocktails et tout. Et lors d'une randonnée, on est allé vers une casque. Je crois que j'ai vraiment déjà raconté dans l'MK. Hein, vraiment, je suis désolé pour les.
Pour les gens apprécient de redécouvrir.
Mais en gros, on est allé dans cette. C'était la cascade Didier. Donc, c'est une cascade qui est très, très, très souterraine. Et donc, ça nécessite de s'enfoncer dans la forêt tropicale encore et encore et encore. Et plus tu t'enfonces, moins il y a de lumière. Et aussi, comme c'est une île tropicale, enfin une île près de l'équateur, en fait, le soleil tombe d'un coup. Donc à 17h30, il n'y a plus de lumière. Et nous, on n'a pas du tout prévu ça. On s'est très mal organisé en termes de temps, de gestion du timing. Et donc, on s'enfonce. Et à 17h, on est vraiment au plus profond de la forêt tropicale. Et on réalise qu'il nous faut 30 minutes pour faire le chemin retour qu'on a mis 2 heures à faire à l'aller, quoi. Et donc on se dit, ah mince, ça va vraiment être l'horreur, sachant que c'est vraiment la forêt, il peut y avoir des serpents, des mygales, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de rivières, de cours d'eau, et tout est hyper humide. Enfin, c'est une forêt tropicale, donc c'est extrêmement dangereux, et on n'a plus de batterie, évidemment. Sinon, c'était pas drôle.
Faut que ce soit et complet.
Donc, on s'est dit, bah on va le faire en courant. C'était la pire idée. Et en plus, on était genre en tongs, enfin vraiment en petite sandalette, tu vois. Ma botte était en mini-jupe et maillot de bain, et moi j'étais en micro-short en cuir et body échancré, bref. Pas du tout une tenue de rando.
C'est clair.
Ça n'avait aucun sens, et du coup on est rentré en courant et on a failli se tuer une 40aine de fois. Et clairement on a fait la fin dans le noir, quoi. Mais c'était extrêmement drôle. Enfin, la fin, on était à moitié mort de rire, à moitié paniqué.
Ah bah ouais, tu m'étonnes.
Non, mais si on meurt, au pire, c'était de belles vacances.
Ouais, oh là là.
C'est le genre de moment où t'as tout qui te passe par la tête de dramatique, quoi.
Bah, dramatique, en même temps, on se faisait un peu le bilan de nos vies en se disant, on a quand même une belle vie. Et puis on
oh là là.
Mais je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Et si je disparais, je suis contente de le faire avec toi. Oui, moi aussi. Vraiment, c'est vu mourir, quoi. Et.
J'ai une question. Est-ce que pendant que vous couriez en tong, l'œillet de la tong,
a failli se défaire? Non, en l'occurrence, c'était pas vraiment des tongs, c'était des nu-pieds avec un peu plus de lanière et tout. C'est des sandales Minelli que j'ai depuis une dizaine d'années qui tiennent encore. Donc,
parce que ça arrive souvent quand
c'est
tu cours avec des tongs.
Mais ouais,
oui,
c'est vraiment le truc à pas
bien
faire.
Sûr.
Mais les tongs, c'est surfait.
Je crois que je sens, quand tu dis ça, je sens dans
la
pied qu'est-ce qui se passe, tu vois. Quand,
et le pied qui avance
et le pied qui sur le.
Quelle horreur.
C'est hyper inconfortable de courir en tongs, vraiment, ne le faites pas chez vous. Et pendant ces mêmes vacances, je crois que. À un moment, on allait sur une autre randonnée, où on traverse un espace, vraiment, je l'ai aussi raconté dans l'MK, je n'ai aucune histoire. Mais on avance dans une randonnée qui est un peu escarpée, et ensuite, on arrive sur une zone immense de sable, en fait. Et à un moment, je sens que je m'enfonce. Et bêtement, je me dis, ah mince, ça se trouve, c'est des sables mouvants. Et mon premier réflexe a été de courir encore plus loin dans les sables mouvants. Et du coup, j'ai commencé à m'enfoncer encore et encore et encore. Et je sais que ça m'arrive, genre, à mi-cuisse, quoi. Et là, j'arrivais plus à bouger.
Mais l'angoisse!
Et du coup, je me dis, ah mince, c'est la merde et tout. Et ma pote Hélène me disait, Anthony, plus tu paniques, plus tu bouges et donc plus tu t'enfonces, arrête de bouger. Je dis, non, mais je veux pas mourir.
C'est à ce moment-là où tu lui disais, j'étais ravie de te connaître, je t'aime.
Je lui ai redit. Mais en plus, je passe ma vie à dire je t'aime à mes amis. Enfin bref. Et donc, j'étais en mode drama queen et tout. C'est la fin. Et elle me disait, non, mais Anthony, arrête de paniquer et tout. Et elle cherchait une branche, mais c'est un espace hyper désertique. Ça s'appelle la savane des pétrifications. Et
sympa.
Il y a énormément de paysages.
Mais ça porte bien son nom, du coup.
Ouais.
En fait, ça va des pétrifications parce qu'il y a beaucoup de fossiles qu'on peut retrouver qui datent de millénaires.
Qui ont été pris dans des sables mouvants, en fait.
Ouais. Comme toi.
Oui,
tu aurais pu finir fossilisé.
Peut-être, effectivement. Et du coup, c'est assez désertique. Donc, c'était très difficile de trouver une branche pour essayer de me rattraper. Et donc, elle trouve une misérable branche et je la prends et elle se casse, évidemment. Après, elle en cherche une autre. Elle finit par en trouver une et elle arrive à m'extirper un petit peu. Et sachant qu'on a essayé d'appeler des secours, mais il n'y avait pas de réseau.
Enfin, bref.
Mais l'angoisse jusqu'au bout, quoi.
Mais en fait, c'était, je pense pas qu'il aurait pu mourir. Enfin, en vrai, avec du recul, je crois qu'il ne serait pas mort. Mais je ne préfère pas vérifier. Et après, je suis rentré, j'en ai parlé à mon père qui vit en Martinique et du coup, on était chez lui pendant les vacances. Et il m'a dit, non, mais Anthony, c'est hyper dangereux ce que t'as fait. C'est vraiment le truc à ne surtout pas faire, genre courir encore plus dans les sables. Et surtout, plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. Et je me suis dit, oui, je sais, elle me l'a dit et tout.
J'avais vu une vidéo comme ça au Mont-Saint-Michel.
On a vu la même vidéo, je crois, parce que je vois de quoi tu parles.
Ouais. D'un mec qui explique à des touristes qui visitent le Mont-Saint-Michel comment sortir de sable mouvant.
Ah mais oui, c'est récent.
Ouais.
Ouais, c'est brut,
franchement.
Oui, oui. Ouais, ouais.
C'est pas si facile que ça. Hein.
Faut
vraiment, je sais pas, genre faut te mettre en avant, couché comme si t'étais.
Oui, je crois qu'il faut s'horizontaliser.
Là, et comme ça, voilà. Et après tu secoues ta jambe, bon, pas trop, mais tu secoues ta jambe comme ça et jusqu'à ce que
que tu remontes.
Tu remontes et qu'elle finisse par sortir.
Mais c'est ce que ma belle essaie de m'expliquer. Je sais pas pourquoi, elle est vraiment douée en sciences naturelles. Enfin, elle me dit horizontaliste-toi, je t'ai mais ça va rien dire. Du coup, j'ai essayé de me pencher un peu pour m'allonger, en fait, mais c'est hyper contre-intuitif parce que t'as pas envie de mettre ton visage.
Bien sûr,
t'as l'impression de t'enfoncer encore plus en faisant ça.
Non, mais ce qui était hyper débile, c'est que j'étais là, non, mais j'ai pas envie de me tâcher.
Ah, j'adore.
Ah oui, en effet.
Elle me disait, bah vas-y, penche-toi. Je dis, non, mais mon t-shirt il est blanc et tout. Elle me dit, tu vas crever sinon. Je dis, non,
même vraiment au bord de la mort, tu penses quand même à.
J'ai pensé à mon style, ouais. Et le pire, c'est que vraiment, j'ai failli laisser une chaussure dans la boue et je voulais pas sortir tant que j'avais pas réussi à la récupérer, tu vois.
Ouais.
Vraiment, ça n'avait aucun sens. J'ai aucun sens de priorité. Je n'ai aucun instinct de survie. Il faut le savoir. Et donc, vraiment, c'est les vacances en pleine nature, j'adore, mais je peux mourir à chaque seconde, quoi. Parce que
à tes risques et périls.
Je suis vraiment idiot. Je n'ai pas d'instinct de survie.
Et vous avez mis combien de temps, du coup?
Pour faire cette randonnée.
Finalement.
Alors, la savane des pétrifications, c'était pas si long. Hormis cet incident très très vif. Et bien je crois qu'on a dû mettre 4-5 heures
Mais combien de temps t'as mis pour sortir des sables mouvants?
On n'a pas chronométré, mais je pense que ça nous a pris au moins une demi-heure qui avait l'impression d'avoir duré 2 heures, tu vois.
Ah bah oui,
ressenti même plus que ça, quoi.
Ouais.
Et voilà. Et sinon j'étais en Sardaigne une fois et à chaque fois j'allais dans un restaurant, j'étais là, je veux le plat le plus typique, et le plat le plus typique était à chaque fois absolument dégueulasse.
On mange très mal en Sardaigne, hein.
Bah je sais pas, il y a plein de trucs délicieux. En fait, tous mes potes avaient des trucs vraiment exquis et moi j'étais là, oui, alors la spécialité locale, c'est quoi que vous me conseillez? Et en fait, j'ai la fâcheuse tendance de demander aux serveurs et serveuses, c'est quoi votre plat préféré sur la carte? Et je sais pas s'ils me trollent ou pas, mais je sais pas, c'est dégueulasse, quoi.
Ah merde.
Depuis que
qu'ils ont vu des goûts de merde.
Oui, c'est possible. Pas,
ça arrive. Tu fais confiance à des inconnus quand même quand tu dis ça.
Oui. Mais en fait, je suis très catégorique, du coup, je sais toujours ce que je veux sur une carte, mais parfois, je suis d'humeur curieuse et je me dis, allez, vous, c'est quoi votre plat préféré? Je le fais tout le temps, quoi.
Ouais.
Et même à Paris, une fois, j'ai demandé, c'est quoi votre plat préféré à la cantine de Dualiba et Jacquemus, là, dans le coin? Bah, je t'en avais parlé, Marie-Stéphanie. Et en fait, elle m'a dit, ah, le chou farci, il est exquis. Oui. Je dis, non, mais j'ai très faim. Elle m'a dit, c'est super. Et le truc faisait vraiment la taille de mon poing maximum. Et je mange en grande quantité. Donc, évidemment, j'étais en souffrance, quoi. Et comme je ne retiens jamais la leçon, je lui demande, oui, j'hésite entre les deux desserts. Enfin, il y en avait 5. Et je disais, c'est lequel votre préféré? Et elle me dit, c'est aucun des deux que vous choisissez, c'est l'autre. Je lui dis, bon, bah, je prends votre préféré. Et c'était nul à chier.
Oh la vache, c'est pas possible.
Voilà.
N'y allez pas, je donnerai pas le nom du restaurant parce que je suis gentil, mais voilà. Si on vous dit, ouais, c'est là où Jacquemus amène tout le temps du Lipa, n'y allez pas, c'est nul.
N'y allez pas. Ça me donne envie de chou farci, tout ça. Ça me donne faim. Je sais qu'il est, il est tard, mais pourtant, chou farci, tu me donnes envie.
Et toi, ton anecdote la plus what the fuck?
Eh bien, écoute, moi, mon anecdote la plus what the fuck, c'était à Barcelone, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Voilà, à l'époque où... non, c'était il y a un peu plus de 10 ans. C'était l'année où je travaillais au McDo. Hein, la fameuse année voilà, du McDo. Et on était partis en septembre avec une copine, du coup, donc après la fin de notre contrat au McDo. Copine que j'avais rencontrée au McDo. On s'était dit, viens, on se fait une semaine à Barcelone... Bon, on avait réservé ça fin août, donc en réservation un petit peu tardive, voilà, même si on est hors vacances d'été, il n'y avait plus grand-chose et on voit finalement un Airbnb qui avait l'air pas mal à côté des Ramblas, donc plutôt central, trop cool, on book et on voit plein de commentaires positifs, l'hôte est super sympa, super accueillant, donc ok, on se dit cool, on y va, c'est sûr quoi. Et on avait loué une chambre pour deux, donc on dormait toutes les deux dans la chambre, dans l'appartement de ce mec, qui ne nous a pas accueillis quand on est arrivé. Donc en fait, on est arrivé, on ne savait pas qui était notre hôte. Bref, on installe nos petites affaires et tout. Et au bout de 24 heures qu'on est là, on entend sonner dans l'appart. Donc on va ouvrir parce qu'on se dit, ouvrir quoi, quelqu'un sonne. Je sais pas, on n'était pas chez nous, mais en même temps, on se dit, je sais pas si c'est important. On ouvre et là, un mec nous parle en espagnol. Bon, je parle pas espagnol, ma pote parle pas espagnol. Il nous parle en anglais. Il nous demande est-ce que Pedro, il s'appelait, je crois, est-ce que Pedro est là? J'ai un sujet important à voir avec lui. Et mec, un peu gueule, enfin, pas très rassurante quoi. Puis on lui dit, non, enfin, nous on est là en logement Airbnb, on sait même pas qui c'est, on l'a pas vu. Ok, d'accord. On ferme la porte, le mec se casse, on rentre. Le soir, pareil, une autre personne qui toque, gueule un peu, pas très rassurante encore une fois, qui nous demande à voir ce fameux Pedro. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il a un commerce, un trafic de, je sais pas.
Bref, tellement pas ouvert.
Et le mec rentre le soir et très sympa, hyper stylé, vraiment le Barcelonais hyper sympa que tu croises, que tu croiserais dans les soirées où tu vas t'amuser. Enfin, un mec hyper hyper chill, hyper cool. Et il nous dit, ouais, je suis DJ au W Hotel. Je sais pas si vous voyez cet énorme hôtel en forme de voile à Barcelone.
Ah oui, d'accord.
Sur la plage. Truc hyper stylé. Nous on se dit mais trop cool. Enfin, il me dit je suis DJ au W Hotel, si vous voulez passer, passez. Enfin, je mixe tous les soirs. Donc ok, trop cool. On y va le premier soir. Effectivement, il mixait. Donc on se dit ok. Enfin, en fait, il a l'air de quelqu'un de clean quoi. Et bref, on rentre. On arrive donc vers 3h du mat. On arrive devant son appart qui était dans une petite ruelle un peu mal famée quand même. Je tiens à le préciser. Et là, on voit deux personnes qui attendent devant l'appart, qui nous regardent rentrer. C'était un truc vraiment en rez-de-chaussée. Donc la porte d'entrée était sur
le truc. Ça me fait peur.
Voilà. Et là, on commence à se dire, il y a vraiment un truc chelou. Enfin, faut qu'on enquête quoi. Et en plus, on avait un petit peu bu, donc on était en mode Sherlock Holmes à deux balles. Et on rentre dans l'appart et ça faisait quand même, ça faisait 48 heures qu'on était là, un peu plus de 48 heures, et on se sentait aussi un peu bizarre. Tu vois, on se sentait, je sais pas, un peu fatigué. C'était ça surtout, on se sentait vraiment fatigué.
Vous êtes drogué?
Non.
Moi aussi, j'ai cru ça.
Je ne spoile pas. On se sentait fatigué, on était là, mais toi aussi, t'es fatigué. Puis on se disait, ouais, non, mais on a bossé tout l'été au McDo, c'est fatigant, voilà. Donc là, on relâche la pression, on essayait de trouver des explications logiques. Puis on voyait quand même que, voilà, on dormait beaucoup et qu'on était un petit peu, dans les choux. Et on commence à fouiller, on regarde bêtement dans sa cuisine, dans ses placards, et puis on ouvre sa cuisine et on ouvre le placard de sa cuisine et on tombe sur des gros bocaux avec des têtes de weed.
J'avais pas entendu comme ça.
Avec des têtes d'enfants
dans l'enfer.
Avec plein de têtes comme ça séchées et on se dit ok, enfin bon, rien de choquant, ils fument, voilà. Et puis il y avait une, donc nous on dormait à l'étage, c'est une sorte de mezzanine, lui il avait sa chambre à l'entrée à gauche et tout au fond on découvre une petite porte. On se dit ah tiens, c'est drôle, enfin il y a une autre pièce. Putain, la porte est fermée. Et nous, complètement débiles, à 4h du mat', on se dit « Non mais attends, on va ouvrir la porte et tout. » Donc on essaie de crocheter la serrure, machin.
Quelle idée !
Bref, et je sais pas comment on finit par trouver ces clés. Donc c'est que c'était pas tant caché que ça, quoi. Et on ouvre la porte et en fait, derrière la porte, il y avait une véritable ferme à cannabis. Voilà, enfin okay. Une culture sur je sais pas, genre 10 mètres carrés de cannabis. Et en fait, soit ils fumaient et on se rendait pas compte qu'on avait les effluves.
Mais tu aurais senti l'odeur quand même, non?
Ah ouais,
c'est ce qu'on s'est dit. Mais non, parce que tu vois, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, on savait ce que c'était.
Vous aviez 20 ans, quoi.
Ouais, voilà, tu vois, on n'était pas naïves non plus. Mais on sentait pas. Enfin, on sentait pas. On ne sentait littéralement rien. Donc, on s'est posé la question.
Trop bizarre.
Est-ce que justement, il y a eu un truc chelou, je sais pas, genre... On mangeait pas avec lui, on n'échangeait pas forcément de temps avec lui, de moments avec lui, on n'avait pas de moments avec lui. Donc on s'est dit, bah, soit, genre, il nous a filé un truc, et... mais pourquoi ? Parce que, enfin, au final, il n'était pas, si... enfin, il n'était pas méchant. Et je sais pas, on a eu des effluves de je sais pas quoi, et on était shootés tout le temps.
Et vous lui en avez parlé ?
Non, on lui en a pas parlé. T'imagines bien qu'on a tout refermé.
Alors on a projeté ta cellule, on a trouvé ta ferme.
On a tout, surtout qu'en vrai, à la fin, du coup, on a capté que en fait le mec dealait. En fait, tous les gens qui venaient devant chez lui, c'était ses clients, oui, voilà. Logique. Et donc, on lui a rien dit parce qu'après, on s'est dit, ok, le mec, il fait pousser, il deal. Mais à côté de ça, il était franchement hyper sympa. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, on est retourné au bar du W,
<C'est>
les meufs, et il nous a payé des verres. Et d'ailleurs, on était quand même un petit peu débiles, j'avoue. Il nous a payé des verres, on savait pas qui c'était.
Oh,
mais
la vache.
Ça nous faisait flipper de voir des gens devant chez lui et des gens en mode, il est où, faut que je lui parle et tout.
Mais pas d'être fatigué, de continuer à boire des verres qui vous payaient. Ouais.
Tu vois, on s'est pas posé la question, en fait.
Mais en même temps, si t'étais au courant, t'aurais pu être embêté en cas de... d'arrêt ou quelque chose pour complicité.
Ouais.
Il m'est arrivé une histoire similaire quand j'étais à Londres. À un moment, je soulouais un appartement à un type, mais trop bizarre, qui a voulu que je lui paye en cash dès le premier jour, 3 mois de loyer, je crois. Et moi, bêtement, je l'ai fait parce que pour le coup, j'étais vraiment naïf. J'avais 20 ans, mais j'étais surtout très débile. comme vous le savez, je n'ai pas d'instinct de survie. Et il y avait ce type qui m'a demandé de lui payer 3 mois en cash. Un autre colocataire qui ne sortait jamais de sa chambre, que j'avais jamais vraiment croisé, qui a invité souvent sa copine, avec qui il geekait toute la journée, toute la nuit. Voilà, c'était juste, on était 3 dans la colocation. Le type qui ramenait tout le temps sa copine et qui mangeait que des grilled cheese à toute heure du jour et de la nuit.
J'adore.
Et qui ne jetait jamais sa poubelle et qui gardait une poubelle dans sa chambre. Et qui est censé avoir une poubelle dans la cuisine. Et en fait, j'ai découvert qu'au bout de 1 mois, il ne la jetait jamais. Et du coup, il y avait des verres dedans.
Enfin, c'était
horrible. Horrible.
Non, tu...
Le mec qui était pas le propriétaire, mais qui gérait la colocation et le fait de la soulouer à des... de le soulouer une des chambres à des gens comme moi. Et en fait, je pense qu'il dealait, parce que tout le temps, il y a des gens qui venaient toquer à notre porte et ça puait la weed partout dans l'appart. Et en fait, je ne voulais pas savoir, parce que je voulais rester dans ma naïveté et me dire, tout ira bien, de toute façon, je ne peux pas partir, j'ai lâché trop d'argent.
Mais t'as raison, il vaut mieux ne pas savoir. Et en fait, nous, on s'est dit, il vaut mieux ne pas savoir. Enfin, déjà pour pas que lui soit au courant, parce que on le trouvait sympa, mais on s'est dit, imagine quand même, c'est un psychopathe et il découvre qu'on a découvert.
Ouais.
Et du coup, il a peur, je sais pas, qu'on le balance aux flics ou j'en sais rien. Pas très rassurant quand même.
C'est clair.
Et effectivement, même pour, enfin, s'il se faisait arrêter ou j'en sais rien, je sais pas. Il valait mieux pas qu'on soit dans le truc, quoi.
Mais moi, il était archi vivant parce qu'il aimait trop jouer dans le salon avec un couteau.
Oh, c'est pas vrai.
Trop bizarre.
Oh my god.
Du coup, bah, moi, je rentrais à 1h du matin, il était en train de jouer avec son couteau à le sortir, enfin, c'était un couteau rétractable.
J'ai compris.
Et il faisait des choses comme ça, avec son couteau dans le salon, en mode « Ah, coucou !» Et puis avec son couteau dans le noir, et moi j'arrive à moitié bourré, j'étais « Ah, bonsoir !» Je vais dans ma chambre.
Oh,
et une fois, il m'a dit « I know what you are ». J'étais là genre « Quoi ?»
Oh.
Il m'a dit « You gay ?» J'étais là genre « Ah oui, d'accord, ok. » Et après, je me suis dit « De toute façon, qu'est-ce que j'avais à cacher ?» Enfin, je sais même pas ce qu'il aurait pu dire. Bref, c'était vraiment un film, mais d'horreur, mais tout s'est bien terminé. Il était très sympa après cette conversation.
Ouais.
Voilà. Mais c'était vraiment à la fin du séjour, donc ça allait
comme
mieux.
Quoi les apparences, finalement.
Sont pas trompeuses. Enfin, je pense qu'il était quand même un peu dangereux. Hein, mais bon,
ouais,
tout s'est bien passé pour moi.
On ne sait pas ce qu'il est devenu depuis.
Je ne veux pas savoir.
Moi, ça me fait rire d'imaginer comment ces gens ont pu vieillir, tu vois. T'as les gens, justement, qui vivaient dans leur chambre avec leur poubelle. Est-ce que ces gens ont une vie un petit peu plus ordonnée aujourd'hui?
Vous saurez que j'ai souloué mon appartement pendant 3 mois à Paris, là, dans le 18e, à un très bon copain. Et en fait, le mois dernier, je lui dis « Écoute, je rentre à Paris une nuit avant de repartir, j'ai besoin de venir chercher mon passeport pour le faire refaire, bref. » Donc je passe, il me dit « Ah non, mais je suis au journal, il est journaliste aussi. » Il me dit « Bah attends, viens plutôt à 14h, comme ça j'ai le temps de revenir, de faire un peu le ménage et tout. » Donc quand je suis arrivée, ce que j'ai vu était la version rangée. C'est
aïe
ça
aïe
qui
aïe
m'a inquiétée. Car il y avait des strings de sa copine pendus à la fenêtre de ma terrasse, des paquets d'argent. Donc j'étais là, qu'est-ce qui branle
paquets d'argent. Genre des liasses de billets.
Des liasses de billets.
C'est très bizarre.
Non, mais
qu'est-ce
alors
que c'est
vraiment un très bon ami à WAM. Et franchement, s'il avait fait des trucs bizarres, il s'en serait vanté, je le sais. Donc c'est pas un truc super chelou. Mais bon, bref, et tout, je vois ça, et il me dit « Désolé, hein, c'est le bordel encore un peu. » J'étais là « Non, mais en vrai, tu le souloues, donc c'est chez toi, je m'en balèque. » Mais hier, je suis rentrée,
de mes vacances. Et donc, j'ai repris l'appart. Et je pensais qu'il aurait fait ce qu'on appelle un nettoyage, sinon extraordinaire, au moins un peu sommaire, quoi. Mmh. Et non, c'était ignoble, de bout en bout. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait des verres et des envolées de moucherons dans la poubelle.
Oh,
tout était sale, ça collait par terre. Il a fait cramer toutes mes plantes que j'avais juste dit, tu peux juste mettre de l'eau à mes plantes, ça m'a coûté vraiment 250 balles d'habiller ce balcon. Et voilà. Donc moi, je pense qu'il y a des gens, ils restent comme à toute leur life, quoi.
Ouais.
Et
oui,
je peux pas préciser, il a 46 ans.
Ah oui.
Oh là là.
Ah oui, donc oui, d'accord, oui. Bah ouais.
Donc je l'adore, hein, tu sais que je t'adore, mais t'es un peu crasse-pouette,
si
quoi.
Tu nous écoutes.
Putain.
Ouais. Ah ouais, franchement.
Il y a plein de gens comme ça. Il y a plein de gens comme ça.
Mais oui, les gens ne. Et alors, pour reprendre sur les colocations, moi j'ai été en colocation avec un homme extrêmement bizarre aussi quand j'habitais à Munich. Et en fait, j'étais dans un quartier résidentiel super chicos. Et le jour où j'arrive, je vois des petites maisons blanches, c'est vraiment Wisteria Lane, et je me dis chambé et tout. Et je passe devant une maison dégueulasse, taguée de partout, qui tombe en ruine. Et je suis là, faites que ce soit pas elle, évidemment c'était elle.
Oh, putain.
Donc j'arrive et tout chez le gars. Et en fait, comme je m'étais pas organisée, j'étais arrivée trop tard pour la résidence étudiante. Donc du coup, j'étais vraiment moitié à la rue avec mes 50 valises. Du coup, je me suis dit, bon bah tant pis, j'y vais. Et le gars qui m'ouvre la porte, je me souviens de toi Patrick, espèce de chien. Patrick était vraiment un énorme connard qui m'a fait payer un loyer exorbitant pour dormir sur un duvet par terre, sachant que lui en fait, il vivait avec ses deux ex et en fait comme il voulait se faire de l'argent sur leur dos, il dormait lui dans la cuisine sur un canapé très grand qui n'était pas dépliable et qui était minuscule. Donc il dormait recroquevillé en position fœtale juste pour pouvoir continuer à loger ses ex et pour qu'elles puissent continuer
un
énorme rat. Rat à tel point, bon déjà il avait 7 enfants et il me l'avait jamais dit
avec ses deux ex,
avec où, les plusieurs,
tu sais que c'est vraiment des personnages de romans là entre l'ex de ta mère et lui.
Et après les gens ils pensent que j'invente, notamment l'ex de ma mère, je vous jure, ils mangent vraiment que des yaourts, bref. Et un jour je me réveille, il m'avait jamais dit combien il avait d'enfants, je savais même pas qu'il avait des enfants. Et un jour je me réveille dans la nuit parce que je sens, enfin dans la nuit, le matin, je sens un truc qui saute sur mon lit et je me réveille, deux enfants en bas âge.
Super.
Et moi je prends peur parce que je suis là, pourquoi il y a des enfants en bas âge qui chantent en allemand sur mon lit.
Oh là là.
Bon, je me lève, je dis, Pat, est-ce que c'est normal qu'il y ait des enfants qui sautent sur mon lit? Il me dit, ouais, c'est mes enfants. Je dis, ah, t'as des enfants? Il me dit, ouais, j'en ai 7. Et j'étais là, ah, ok. Avec cette femme différente. Et donc,
aucune...
Putain.
Mais est-ce que dans les 7, il y en a... Enfin, est-ce que les deux qui vivaient sous le même toit étaient mères de certains de ses enfants?
Ah non, aucune. Parce que c'était des meufs récentes, tu vois. C'était vraiment ces deux dernières ex. Et moi, un jour, il me fait, et toi, Kaline, tu veux des enfants? J'étais là, Patrick, n'y pense
pas avec toi.
Mais attends, mais pourquoi elle reste?
Parce que elles étaient, en fait, c'était vraiment que des gens qui avaient pas de thunes. Et tu vois, qui étaient un peu en galère. Il y en avait une, elle organisait des festivals d'afro dance, je sais pas quoi. Enfin, que des trucs qui rapportent pas d'argent, tu vois. Un jour, je rentre chez moi et je cherche une bouteille de vin dans mes affaires pour l'ouvrir le soir, déguster avec mes copains.
Du vin.
Et il y avait plus de vin, en fait, dans mes affaires. Et je vais voir Patrick et je lui dis, où est mon vin, Patrick? Et Patrick me dit, ah oui, je l'ai trouvé, je m'en suis servi, je te le rachèterai. Évidemment, Patrick n'a jamais racheté la bouteille de vin. Et il s'avérera plus tard qu'un jour, Patrick vient me voir en me disant, c'est un gros manipulateur. Kalindi, j'ai deux nouvelles pour toi, une bonne, une mauvaise. Tu veux laquelle? Je lui dis, bah vas-y, balance la mauvaise. Il me dit, alors la mauvaise, c'est qu'il n'y a plus d'eau chaude, en fait, parce qu'on n'a pas payé je sais pas quoi, machin. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir bientôt refaire la tuyauterie, donc on va pouvoir avoir une tuyauterie flambant neuve. J'étais là, mais je me casse dans un mois de mon Erasmus, que tu veux que j'en ai à foutre de ta putain de tuyauterie? Et donc j'ai fini par déménager et aller chez une copine parce que j'en pouvais plus de Patrick qui était devenu mon némésis.
Mais quelle enflure.
Ouais, ouais, c'était vraiment une enflure.
Ah là là. Et tu payais cher pour ça?
Je payais 600 euros, ce qui est cher pour la banlieue munichoise à l'époque.
Ouais.
Pour une chambre qui était quand même assez grande, mais dégueulasse.
Ouais.
Et quand mon ex, Chris, venait me rendre visite, qui lui était allemand mais vivait dans le nord, quand il descendait, il devait payer 10 euros par jour pour rester avec moi.
Pardon.
Pour couvrir les frais d'électricité.
Arrête.
Mais c'est horrible.
Je vous jure. Pour dormir sur un futon.
Et puis de quelle eau s'il n'y en avait pas à la fin, en plus.
Clair.
Enfin, c'est un scandale.
Ah non, mais Patrick était vraiment the rat of the rat. Quoi.
Oh là
enfin,
là.
Franchement, extraordinaire type.
Et lui, faisait quoi sa vie?
Bah rien, était chômeur.
Bah, il louait des...
il louait
il était louait marchand à ses sommeil. Ex marchand de sommeil, c'est ça. Oh, sacré patte, mais quelle histoire.
Ouais, l'horreur.
Ah là là.
Moi, j'ai rien vécu hein, comparé
je à me dis, il a pécho dans ces conditions aussi, ça veut dire.
Ah, alors ça, mais... ce qui est extraordinaire parce que il sent le connard manipulateur à 10 milliards de kilomètres et il était ni beau gosse ni particulièrement intelligent. Et moi le seul truc que je trouvais bien c'est qu'il me disait qu'elle ne dit pas en anglais, on parle allemand quand on est à la maison. C'est le seul truc qui m'a aidé qui m'a fait putain, un peu progresser.
600 balles pour apprendre le mot des allemands, ouais.
Oh, incroyable. Vous vous rendez compte que cette intro est sans doute plus
longue. Quelle aventure.
Oui,
mais je pense que
très, très
c'est l'intro la plus longue, de, en tout cas, de l'histoire de ma participation dans LMK. Et c'est pour ça que, transition, avez-vous des commentaires? Avez-vous reçu des petits mots cet été?
Ouais. Moi, j'en ai. Parce que
moi,
j'ai
c'est
cherché.
Simple, j'en ai pas.
J'ai regardé,
les gens m'écrivent toujours pas. C'est beaucoup trop triste. Sauf ceux qui m'écrivent pour me dire « Oh là là, j'ai entendu que personne t'écrivait. Moi, j'ai bien aimé ce que t'as dit. »
Oh, c'est trop mimes.
Oui, c'est très mimes. En vrai, c'est trop mimes.
Moi, j'en ai. Il faut savoir que la dernière fois, dans le dernier épisode de LMK, j'ai parlé, souvenez-vous-en, de mon utilisation de ChatGPT. Vous en souvenez? Et du fait que j'utilisais ChatGPT pour lui poser des questions existentielles quand j'avais des petits problèmes, notamment des problèmes de cœur. Et du coup, j'ai eu énormément de réactions de gens qui font la même chose que moi, je vous ferai savoir. Et notamment, un commentaire de curiosities.vanities.
Je viens de m'écrire.
C'est pas vrai. Slay. Qui m'écrit, bon, j'ai expliqué à ChatGPT que je changeais d'appartement dû à certaines frictions avec mon copain et que même si c'était ce que je voulais, je, entre guillemets, freaking out big time. Oui, j'écris en anglais car je vis pas en France, j'ai le droit. Et bref, il m'a fait une liste de trucs positifs de la situation que je savais, mais en effet, c'est, trois petits points, rassurant, ça aide et ça allège le fait que moi non plus, j'en peux plus de parler de tout ça à mes potes. J'avais déjà utilisé ChatGPT pour le taf et quelques trucs marrants, mais c'est vrai que pour le perso, ça peut aider et je vois comment. Terrifiant, mais bon, vu que je suis déjà terrifiée à l'idée d'avoir un nouvel appart, de changer ma vie et tout, au point où j'en suis, parler à de l'intelligence artificielle, ça va. Et je suis ravie d'avoir pu vous inspirer à surmonter des problèmes perso que vous traversez. J'espère que tu vas bien et que je ne sais pas si tu as déjà déménagé, mais en tout cas, j'espère que tout s'est bien passé. Et merci beaucoup pour ce commentaire. Utiliser ChatGPT pour parler.
J'ai jamais pensé à faire ça.
C'est ma meilleure pote qui m'a influencée parce que
mais
j'aurais jamais pensé.
Moi, j'aimerais bien voir si j'aimerais bien tester pour voir si ChatGPT me donne une meilleure idée, tu vois, que ce à quoi j'aurais pu penser ou ce qu'on m'aurait dit.
Fais-nous un retour d'expérience.
Hein. Allez. On va trouver une situation.
C'est sûr qu'il faut pas le prendre pour argent comptant. Enfin, voilà, mais je sais pas. Parfois, enfin, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit dans l'épisode précédent, mais. Quand t'as l'impression d'en parler en boucle à tes potes et tout, et que voilà, t'as envie de pas avoir le cerveau qui boue parce que tu sais plus quoi penser de la situation, etc. Bah, ça aide parfois à cadrer un peu. Voilà.
Pourquoi pas?
Very
pourquoi
well. Kalindi, est-ce que t'as un commentaire?
Franchement, la dernière fois c'était il y a 3 mois. S'il faut que je retourne dans mes DMs il y a 3 mois, je vais pas y arriver. Désolée.
Anthony.
La prochaine fois, je chercherai.
Alors j'ai eu plusieurs commentaires de gens qui me demandaient quand est-ce que LMK revenait, donc hi, we're back. Et sinon, il y a un commentaire que je trouve peut-être plus intéressant pour tout le monde, c'est que ça, parce que ça permet aussi d'avoir une reco. Mais je me demande si j'avais pas déjà recommandé ce podcast, vous allez me dire. En gros, c'est Laetitia qui m'écrit, je cite, Hello Anthony, j'espère que tu vas bien. Après environ 1 milliard d'épisodes de LMK où je me dis à chaque fois non mais c'est trop, on aime les mêmes choses et tout ce que je dis Anthony est intéressant, je me décide enfin à t'écrire pour react à un épisode où tu parlais de poésie, pour te conseiller un podcast suspense de poésie. C'est le podcast at mange tes morts. Mange tes mots, pardon.
C'est pas très poétique.
Pardon, je suis tombé dans le jeu de mots, je l'ai raté, mais ça s'appelle mange tes mots. Et c'est host par une ancienne collègue de Laetitia, donc. Et ils organisent parfois un bordel de la poésie, sous forme de cabaret poétique. PS, es-tu déjà allé au cabaret décadent? Ça revient tous les ans, je pense que ça pourrait te plaire. Bonne journée, voilà. Donc,
super
merci
reco,
beaucoup, Laetitia, pour les recos, effectivement. Ouais, c'est une super reco.
Si j'écoutais des podcasts, j'écouterais ça.
Ben, justement, je suis assez avide de recommandations de podcasts poétiques, parce que vraiment, écouter de la poésie, c'est sous-côté. Voilà.
Tu viens d'ouvrir le message ou t'es déjà allé écouter le podcast du coup?
Je l'ai pas encore écouté, je l'ai ajouté à ma playlist.
Okay. Trop bien.
Et du coup, il faut que je l'écoute, mais je vais bientôt tomber dessus, je pense. Parce qu'en gros, je les télécharge et après, je les écoute. J'ai appuyé sur, sur play et j'écoute ça quand je suis dans le RER et compagnie. Oh,
ça prend tellement de place dans le téléphone.
Ah, j'y pense jamais.
Ah oui, faut que tu les décharges après.
Ah, ça se supprime pas tout seul ?
Non.
Ok, bah, il faudrait que je le fasse un jour.
Voilà, info, comme ça.
Voilà, donc trop toi, bien. Pas de commentaires.
Non, moi non, je vais pas m'étendre sur voilà, mon manque de commentaires.
Ça va venir.
Oui, non mais oui, bien sûr. Donc j'annonce quand même que je dois partir dans 20 minutes. Pour vous qui nous écoutez, je vais passer le lead de cet épisode à Anthony.
Un grand pouvoir, un peu de grande responsabilité.
La chance.
Toi, t'as l'habitude de le faire, non?
Oui.
Est-ce que t'as envie qu'il y ait une...
Non, bon, non, Anthony le fera avec plus de professionnalisme, c'est sûr.
C'est pas dit.
J'attends les questions d'Anthony, justement.
Ah pardon, excuse-moi. Et toi, c'est quoi ton kiff cette semaine, Marie-Stéphanie?
Alors, mon kiff, c'est un livre. Et ce livre s'appelle « En bon père de famille ». Il a été écrit par Rose Lamy, que vous connaissez peut-être sur Instagram, sous le pseudonyme de « Préparez-vous pour la bagarre ». Et d'ailleurs, petit teasing, parce que cet épisode sortira avant la publication sur le site de Mad d'une interview de Rose Lamy que j'ai déjà réalisée et qui du coup est autour de son bouquin dont je vais vous parler. Alors, avant de vous en dire plus sur ce kiff, est-ce que vous savez ce que c'est un bon père de famille ? Est-ce que vous connaissez cette expression ?
Le livre ou...
Il y a vraiment une expression qui s'appelle « en bon père de famille ». Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Pas du tout.
Non.
Ça me dit quelque chose, c'est pas un truc dans la loi, dans les textes, dans des textes institutionnels. Ouais.
Travail, famille, patrie.
Ben, en bon père de famille, c'est effectivement une notion qui a été intégrée dans la loi, dans le code civil de 1804 de notre cher Napoléon. Et cette expression de bon père de famille, qui au départ donc était une expression juridique et qui est désuète depuis les années 80, je crois. Enfin, ça n'existe plus dans le code civil. Ça a été remplacé par, il me semble, quelque chose comme raisonnablement. Mais voilà, en gros, le bon père de famille, c'est quelqu'un qui représente la norme, le neutre universel autour duquel on structure la société. Donc, c'est quelqu'un qui est censé faire les choses raisonnablement. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas trop dépenser, quelqu'un qui va être honnête, quelqu'un qui va être qui va rendre son appartement propre.
Pas Patrick, clairement.
Voilà, c'est quelqu'un... qu'on imagine, donc à l'époque de 1804, on avait présenté ça comme le bon père de famille parce que le père de famille, c'était le patriarche, celui qui était à la tête de la structure familiale et qui devait faire en sorte que tout roule et soit carré.
En 1804, il n'y avait pas de famille monoparentale, d'hommes célibataires
Je ne pense pas. Mais enfin, en tout cas, ça devait être certainement extrêmement mal vu si ça existait, mais ça devait probablement exister. Mais t'étais certainement un paria de la société, je pense, si tu te trouvais dans cette situation. Bref, tout ça pour dire que Rose Lamy, donc, qui a ce compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, a aussi écrit un bouquin qui s'appelle « Défaire le discours sexiste dans les médias ». Et en fait, sur son compte Instagram, elle s'attache notamment à mettre en avant les discours sexistes dans les médias à travers des articles de presse, à travers parfois des faits historiques sur lesquels elle revient, comme elle a notamment pas mal écrit sur l'affaire Marie Trintignant. Et donc, elle a publié ce livre qui est le premier livre dans lequel elle parle à la première personne, parce qu'elle part en fait de son histoire personnelle. Elle raconte qu'il y a quelques années, en signant son bail à Bruxelles, elle s'est rendue compte en lisant le bail qu'on lui demandait d'occuper son logement en bon père de famille. Au même moment, elle apprenait, un secret de famille qui était que son père était un homme violent et qu'il était violent notamment envers sa mère et sa sœur. Elle n'a pas vraiment fait les frais de ces violences, mais voilà, en tout cas, elle n'avait pas en tête cette part-là de son histoire familiale. Et donc, en fait, elle s'est dit, pourquoi on veut m'obliger à occuper ce logement en bon père de famille, alors qu'en fait, on considère qu'un père de famille est un bon père de famille, alors que moi, mon père, c'était pas forcément la figure, finalement, du bon père de famille. Et de là, elle part de cette notion de bon père de famille pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes de défense des hommes violents, donc leurs mécanismes de défense à eux, mais aussi les mécanismes de défense des hommes violents entre eux. Donc, par exemple, Jean-Luc Mélenchon qui prend la défense de Adrien Quatennens, qui est accusé d'avoir mis une claque à sa femme et d'avoir été violent envers sa femme. Et c'est hyper, hyper intéressant, notamment parce qu'elle elle développe toute la figure du monstre qui est un peu la, le cœur de son bouquin. Et elle explique que c'est un des mécanismes de défense de ces bons pères de famille qui est d'opposer justement le bon père de famille et le monstre. Donc, par exemple, de partir du principe que dans la société, tout le monde est bon, naturellement, et qu'il y a des exceptions de gens mauvais ou violents, mais que ces gens sont des monstres. Donc, en fait, c'est... voilà, par exemple, elle prend un exemple de... Alain Finkielkraut qui défend Polanski, une vidéo qui date d'il y a 5 ou 6 ans, je crois. Alain Finkielkraut dit non mais attendez, Polanski, c'est pas non plus le violeur de l'Essonne. Donc voilà, pour historique, le violeur de l'Essonne, c'est un mec qui a violé des dizaines de filles dans la rue de façon hyper violente. Et donc en gros, il compare, il dit ok, Polanski est certes accusé de viol, mais c'est pas un monstre. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est pas si grave que ça. En gros, c'est minimiser la gravité des faits qu'on reproche à ces bons pères de famille. Et elle explique aussi que du coup, c'est un peu comme ça aussi qu'on a créé, enfin que c'est hyper lié aussi au stéréotype raciste, parce que on oppose très souvent la figure du bon père de famille. On imagine le mec. Qui a une situation stable, intellectuelle, accusé de violence face à l'étranger, le migrant qui, lui, est accusé de violer des femmes dans la rue. Donc voilà, c'est un livre qui est assez court, qui se lit franchement hyper facilement, même si, raconté comme ça, on peut se dire que c'est un peu complexe ou lourd. Et non, en vrai, c'est hyper, hyper intéressant et très éclairant, surtout, je trouve, parce que cette notion de mécanisme de défense en disant l'autre est un monstre, donc moi face à lui forcément je suis pas un monstre, en fait c'est absolument partout dans la société et c'est aussi beaucoup repris dans les médias. Et d'ailleurs il y a toute une partie où elle analyse la façon dont l'affaire Alexia Daval a été traitée, donc cette femme qui a été assassinée par son conjoint et qu'on a présentée comme une joggeuse qui avait disparu et qui avait été assassinée par un monstre qui rôdait dans la forêt, quoi. Et elle explique que c'est quand même hyper grave que justement les médias aient pris pour argent comptant cette version qui était en fait l'alibi de son mari. Donc c'était absolument pas corroboré, c'était pas confirmé. Et ils ont pris ça pour argent comptant. Pourquoi ? Parce que dans la tête des gens, il y a l'idée de la violence est l'exception dans la société et la société est une société de bons pères de famille.
Et la violence, du coup, est extérieure au foyer familial, ouais. Effectivement. Et alors qu'en fait, on le sait statistiquement, le premier lieu de violence, a fortiori sexuelle, c'est le foyer. Mm. Et c'est pas, le violeur, il est moins souvent à l'extérieur de chez soi qu'à l'intérieur de chez soi.
Voilà.
Donc vraiment, c'est une réalité statistique implacable. Et pourtant, on imagine toujours le violeur dans la ruelle sombre, inconnu, étranger.
Alors que les flics qui enquêtaient sur l'affaire ont directement dit, quand ils ont vu le mari, c'est chez lui.
Enfin, on le sait en plus, ça aussi statistiquement, ouais. Que c'est souvent
le mari, oui, ouais, c'est clair.
Un conjoint, ouais. Ou ex-conjoint, et pourtant tous les médias ils sont là. Alors, comment elle était On leur tend le micro et ils peuvent pleurer à l'antenne et se forger.
Dans cette affaire, c'est... en plus, lui avait super bien joué sa comédie, avait été, s'était montré partout en train de pleurer sa femme, machin. Ouais. Ça avait participé grandement à l'empathie que les gens ont ressenti pour lui, c'était particulièrement. What the fuck.
Ouais. C'était vraiment appuyé sur cette image-là, ouais. que le grand
pleureur,
public a, il faut être le grand pleureur, comme tu dis, et il faut créer cette image du monstre qui pour faire alibi, quoi.
Ça a l'air passionnant.
C'est vraiment passionnant et voilà, je le dis, je le recommande vraiment vivement parce que c'est très éclairant, même quand on pense déjà être informé sur les mécanismes qui existent dans notre société, c'est vraiment éclairant. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a publié un article sur Woody Allen qui prenait la défense de Luis Rubiales, donc l'ancien sélectionneur des joueuses espagnoles, qui a embrassé de force une joueuse après la célébration de leur victoire lors de la Coupe du Monde. Et il dit exactement ça, en fait. Il dit, mais attendez, Luis Rubiales, il n'a pas violé une fille en pleine rue, hein, c'est pas un monstre. Il a juste embrassé cette nana de force. Mais vu que c'est pas un violeur qui viole en pleine rue, c'est ok, quoi. Donc c'est vraiment l'illustration de d'une partie de ce qui est dit dans ce livre, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses dont j'ai pas forcément parlé, parce qu'il est petit mais dense et vraiment vraiment passionnant. Voilà.
Eh ben, c'est une super reco, franchement. Si tu l'as sur toi, n'hésite pas à le faire tourner.
Ouais, non, je l'ai pas sur moi, mais écoute, et tu reviens la semaine prochaine ?
Oui,
attends, je reviens oui, c'est la semaine
crois,
prochaine. Ouais. Et eh ben, si tu le veux,
avec plaisir, ouais. Je te le filerai. Super.
Absolument toutes les pages sont cornées, ce qui est vraiment la preuve qu'il était bien. Mais ouais, je me le note, je te
Merci
le ramène.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce kiff, Marie-Stéphanie. Ariane, c'est quoi ton kiff cette semaine ?
Alors, pour moi, toujours pas un kiff culturel, un jour j'allumerai mon cerveau, mais c'est pas aujourd'hui, j'ai décidé de parler du fait que je fais du pet-sitting, très original.
C'est le meilleur kiff.
C'est le meilleur kiff, effectivement. En gros, j'ai toujours eu envie d'avoir, je suis team chien déjà, j'ai toujours eu envie d'avoir un chien, mais c'est compliqué parce que déjà il faut savoir que j'habite toujours chez ma mère. Et elle veut pas, mes parents ont jamais voulu, et puis bon, ça coûte de l'argent, c'est compliqué. En plus, on est dans un appartement, mes parents étaient convaincus que un animal allait pas être heureux, en fait, avec cette vie-là. Eux, ils ont eu des chiens, mais ils ont tous les deux grandi à la campagne, etc. Et en plus de ça, ils ont globalement été traumatisés par la mort de leur animal de compagnie, donc ils avaient pas forcément envie de réitérer l'expérience. Et du coup, il y a quelques temps, j'ai quand même proposé l'idée à mon foyer qu'on garde de temps en temps des chiens. Et on a donc commencé avec le chien des parents de ma meuf, qui est un spitz japonais qui s'appelle Ryu. Et du coup, on l'a eu pendant, c'était pas long, c'était genre 4 jours. Et vraiment, c'était le meilleur chien, c'était trop trop bien. Et du coup, moi, j'avais jamais eu ce truc d'avoir un animal de compagnie. Même si là, en l'occurrence, c'était pas le mien, mais j'entendais tous ces gens qui me disent c'est un truc de fou, ce qu'il te donne, ce que toi tu lui donnes, l'expérience que c'est de partager ta vie avec un animal et tout. J'étais attirée par ça, même si je savais pas concrètement ce que ça faisait. Et vraiment, avec ce chien-là, j'ai découvert une nouvelle sorte d'amour que j'avais jamais éprouvé auparavant. C'est vraiment un truc de fou. Pourtant, je l'ai pas eu longtemps et tout, mais j'étais tout le temps avec elle, on faisait tout ensemble, du coup, je l'emmenais, parce qu'on a on a la chance chez Matt de pouvoir amener nos chiens. Et du coup, je l'emmenais au travail. C'est moi qui la promenais. D'ailleurs, ma mère était d'accord pour qu'on garde des chiens, à condition que ce soit moi qui m'en occupe intégralement, of course. Et je sais pas, le fait que de passer tout ce temps avec elle, elle me donnait plein d'attention alors qu'elle me connaissait quasiment pas, en fait. Enfin, moi, je l'avais déjà vu une fois, ce chien, mais c'est tout. En fait, elle m'avait déjà reconnue pour ce court laps de temps comme sa référence. Et du coup, elle me suivait partout. Elle venait tout le temps dans ma chambre, etc. Et vraiment, c'était incroyable. Et donc, j'ai décidé de passer par un site. Parce que les parents de ma meuf habitent à Grenoble. Donc, c'est pas tous les jours qu'ils viennent à Paris et que je peux garder leur chien. Donc, je me suis dit que j'allais passer par un site de pet sitting. En l'occurrence, un site qui s'appelle Animote. Et donc, sur ce site, tu peux t'inscrire en tant que pet sitter, etc. Tu donnes tes dispos, t'écris ta petite bio, machin. Il faut vérifier ton identité avant de pouvoir garder des chiens. Et puis après, c'est en gros les proprios qui t'envoient des messages. Enfin, les maîtres des animaux qui t'envoient des messages pour savoir si t'es dispo pour garder leur animal. Et du coup, Félix, qui est sur mes genoux en ce moment et qui bouge dans tous les sens, c'est le premier chien que je garde via cette plateforme-là. Et pareil, il est trop mime, il est tout sage. Du coup, c'est un teckel, il a 6 ans. Et il me suit partout. Je sais pas, c'est... Le fait de... Aussi, moi, je suis quelqu'un qui, seul, c'est un peu difficile pour moi de me motiver à faire des trucs, de machin. Et du coup, le fait d'avoir un animal que tu dois sortir, auquel tu dois, je sais pas, tu parles un peu, tu t'interagis, machin, ça me permet de me décentrer et ça me fait vraiment beaucoup de bien à mon esprit. Donc, mon kiff de la semaine, c'est de faire du pet-sitting.
C'est trop bien, j'ai trop envie de m'inscrire.
Franchement, et puis, en vrai, t'as... beaucoup d'avantages. Bon, il y a évidemment quelques inconvénients, c'est-à-dire que le moment où t'as le chien, bah t'as le chien, donc après moi je l'emmène partout, donc voilà, mais tu l'as pas tout le temps, c'est-à-dire que si pendant 3 semaines t'as pas envie d'avoir d'animal, bah t'as pas d'animal, et tu dis non, et je sais pas, moi je trouve que c'est trop...
Ce qui est beau, c'est aussi l'obligation, tu sais.
C'est vrai.
L'engagement voilà, auprès
c'est l'engagement absolu. Quand tu dois le promener, que machin, il est 8h, t'as trop le seum, parce que c'est le week-end, mais en fait c'est bien, parce qu'il
faut chérir ça, surtout.
Mais oui.
Mais en fait, moi ça me terrifie, parce que j'ai trop peur d'adopter un animal et qu'il tombe malade. et que ça me coûte beaucoup d'argent.
Ah, c'est voilà, pour ça. C'est le moment.
C'est l'avantage.
C'est le moment de faire du placement de produit.
C'est le moment de faire du placement de produit.
Et donc, Charlotte, elle a fait un super article sur une idée originale de moi-même, de témoignages de personnes qui ont un animal de compagnie dans leur foyer et en fait, leur animal les ruine. Ça peut être une source de, un gouffre financier, finalement, d'animal. Mais voilà, c'est important d'aimer ces animaux, même dans la souffrance, la douleur et les dettes.
Et pas regarder aux économies quand il s'agit de. Nos bêtes.
Mais il faut anticiper le fait que ça puisse coûter très cher avant d'adopter un animal.
Il faut prendre une mutuelle. Moi, j'ai une mutuelle pour le poupouchou et la titounette. Mes deux chats sont couverts. Non, mais c'est sûr, c'est important. Mais c'est moi, important, j'aimerais poser une question. C'est, je ne comprends pas pourquoi on continue à opposer la team chien et la team chat. Enfin, je veux dire, moi, quand on aime les animaux, on aime les animaux, quoi.
Mais c'est juste que, enfin, pour faire du pet sitting, c'est plus simple d'accueillir un chien chez toi, parce qu'en général, les chats, ils partent pas de leur appartement.
Alors donc, les miens voyagent beaucoup toi d'aller chez
moi. Moi je me déplace, je suis le cat-sitter officiel de tous mes potes et de toutes mes potes et j'adore ça.
Voilà, tu vas les déplacer.
Ouais, exactement. Ouais. J'y vais, je passe la journée avec eux et je dors avec eux, je joue avec eux.
Trop bien, mais je suis d'accord.
C'est super important pour leur morale, enfin.
Bien sûr.
De pas trop les déplacer.
Tu vois, moi là je les emmène en vacances, Kalindi.
Alors moi l'avantage c'est que j'ai la maison à la campagne et surtout mais en fait l'été quand je pars, mes parents vont en Bretagne et du coup je leur file les chats parce que les chats vivent leur meilleure life en Bretagne, un grand jardin, peuvent trucider autant de lézards qu'ils le veulent. Et, mais là, par exemple, je suis pas dans ma maison de campagne et du coup, j'étais embêtée parce que en fait, j'ai deux chats qui sont très... c'est pas vraiment des chats qui aiment être à l'intérieur. Et en plus, moi, très tôt, je leur ai fait découvrir la vie dans un jardin à s'éclater, etc. Et là, après 3 mois de jardin extraordinaire, je me sentais pas de les ramener tout de suite à Paris parce que quand ils vont rentrer, je sais parce que la titounette, mon grand, l'année dernière je l'ai ramené, il a fait une dépression, j'ai dû lui filer des antidépresseurs pour chat.
Ça coûte super cher.
Le Zilken là c'est 27 balles la boîte. Et en fait c'est bon, c'est pas grand chose, c'est du lait maternel en poudre et d'autres trucs j'imagine qui fait qu'il se sent bien. Donc là, j'ai acheté une prise qui diffuse des trucs dans l'air, des phéromones et plein de trucs qui leur rappellent leur daronne et tout, je sais pas quoi. mais du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que là, j'ai demandé à des gens sur Instagram si ça leur disait de venir passer des vacances gratos dans ma maison, dans le Perche, contre juste s'occuper de mes chats. Et j'ai, en fait, c'est une meuf que je connais bien qui est super sympa qui s'appelle Charline qui m'a dit bah attends, mais moi j'ai mon chien, il serait trop content dans ton jardin, est-ce que je peux aller passer 10 jours? J'étais là, mais super! Et on s'arrange comme ça, mais c'est vrai que, en effet, quand on prend un animal, et je trouve qu'un chat, les gens se disent oh les chats, ils s'occupent d'eux, c'est tellement faux. Enfin, moi j'ai des animaux qui sont dépendants des humains et qui sont aussi dépendants de l'extérieur. Et si j'avais su ça avant de prendre mes animaux, je n'en aurais pas pris. Tout simplement parce que je passe mon temps à m'inquiéter du bien-être mental de mes animaux. Si j'avais su, j'aurais pris un chien. Parce qu'en fait, tant qu'à... Parce que moi, mon grand, je le promène en laisse dans la rue.
Mon grand. Tu me parles de tes enfants, c'est clair.
Mon aîné. Je l'ai déjà promené en laisse avec mon mec. Et mon mec me dit, putain, Cal, t'imagines qu'on a perdu toute street cred. Et je dis, moi, j'en ai jamais eu, je viens de Levallois. Mais lui, il est stéphanois, tu vois, il peut se la jouer. Et il me dit, tu te rends compte de quoi j'ai l'air, là, d'un gros miskin avec mon chat que je tiens par un truc de jardinage, là. Et enfin, l'horreur, tu vois. Et en fait, on se prend tellement la tête avec ça que si on avait su qu'il fallait se trimballer avec un putain de chat dans la rue en laisse, on aurait pris un chien directement. Et donc là, je pense à ouvrir... Mais bon, ça demande beaucoup d'argent. Dans mon jardin dans le Perche, d'ouvrir un petit centre où je prendrai quelqu'un qui s'occupe tout le temps des animaux abandonnés, faire un petit refuge percheron pour les chiens et les chats, machin, ce qui va me coûter évidemment une fortune. Je vais finir avec 1 milliard d'animaux qui vont tout flinguer chez moi. Et voilà, mais j'y pense parce que moi, les animaux, ça a toujours été ma life. Et hier, j'ai regardé un truc sur Brut, justement, il parlait de ces gens qui n'étaient pas que très mal compris par la société, qui ont souvent plus d'empathie pour les autres animaux que pour leur propre espèce. Mais ce qui est complètement mon cas, en fait. Voilà. Je donne de l'argent aux gens dans la rue quand ils ont un chien, voilà.
Les amis, je vais vous quitter. Je pète l'ambiance et je suis vraiment déçue de ne pas entendre, de pas entendre vos kiffs, donc je me rattraperai dans le podcast. Notamment, j'ai hâte de savoir ce que tu vas dire sur la Bretagne. Toi, je connais un petit peu ton kiff déjà, Anthony. Et je vous laisse.
Beaucoup de teasing. Merci beaucoup, Marie-Stéphanie.
Au revoir.
Gros bisous, Marie-Stéphanie. À
bientôt. Mais j'allais te dire, Kalindi, peut-être que tu peux, ne serait-ce qu'ouvrir une cagnotte pour le refuge, la création de ce refuge.
C'est pas bête.
Je pense que plein de gens seraient ravis de donner en sachant
un
ça.
Un petit
quoi.
Refuge.
Et je pense que c'est crédible pour que les gens se disent oui, elle va vraiment le faire et pas.
Elle va tout mettre dans son.
Dans du champagne, quoi.
Dans les super implants du cul. qu'une tentation.
Écoute, ça peut être une forme de refuge. On ne peut pas savoir ce que t'en fais.
On a dit refuge, on n'a pas dit quel genre de refuge. Je suis désolée.
Voilà, ben merci beaucoup. Mais moi, j'avais hésité à m'inscrire sur des sites de cat-sitting et où t'es rémunéré pour le faire. Et puis je me suis dit, après, ce sera la course au capitalisme et je vais faire ça tout le temps. Et
alors, franchement, je comprends. Après, oui, c'est rémunéré, mais c'est ridicule, quoi. Enfin, comme je disais tout à l'heure, je suis payée genre 10 balles par jour, un peu moins de 10 balles par jour. Clairement, les gens qui font ça le font pas pour l'argent, quoi.
Non, mais il y a des animaux qui ont des besoins spécifiques et du coup, c'est mieux payé, je crois.
Peut-être. Je sais. Enfin, en tout cas, sur mon site, c'est vraiment la moyenne des tarifs, c'est 9-10 balles par jour, quoi. Ouais. Si tu demandes plus, il n'y a personne qui va t'écrire. Quoi.
Et moi, je suis trop contente de gagner 10 euros par jour pour, garder un chien.
Après,
pour garder Félix, qui a l'air d'être le gars le plus fun.
Mais oui, il est trop drôle. Il est un peu con. Mais
ça se voit.
Oh non, petite tête. Ouais, c'est du délit de faciès, ça, parce que ça se trouve, ça
turbine.
Ça turbine.
Et toi, Kevin, c'est quoi ton kiff cette semaine?
Alors... En fait, là, j'ai passé un mois de vacances, donc je vous ai raconté un peu ce que j'ai fait et tout. Et l'Espagne et tout, c'est chambé. Mais franchement, moi, ce que j'attends tous les ans, je fais des voyages 3 fois par an et tout, je fais un gros voyage. Ce que j'attends le plus, c'est de partir un mois en Bretagne avec ma famille. Pourquoi ? Parce que j'ai une toute petite famille. J'ai que ma mère, ma vieille tante, et par vieille tante, j'entends vieille, parce qu'elle est vraiment vieille, elle a 80 ans, et mon beau-père, qui j'ai une relation particulière, je veux dire, il m'irrite autant que il me plaît, enfin autant que non attends, pas du tout en plus, vraiment pas du tout, j'ai pas du tout les mêmes goûts que ma mère, elle toujours sur des grands flandrins super maigres avec des grands nez, c'est pas du tout ma cam. Donc, bref, je ne juge aucun physique, mais c'est pas du tout ma cam quoi.
Délit de faciès.
Ouais, Félix. C'est clair. J'ai le droit, je suis une grande Flandrine avec un grand nez, donc ça c'est ok. Et qu'est-ce que je racontais? Oui, donc mon beau-père qui m'agace, enfin c'est quelqu'un qui parle beaucoup tout seul, genre c'est pas genre oui bon alors c'est pas quelqu'un qui marmonne, c'est quelqu'un qui a des conversations avec lui-même, genre.
Waouh.
Mais parfois genre dans le salon, je suis là, Michel, tu fais quoi? Et tu parles à qui? Il me dit non mais rien, je suis en train de me parler à moi-même. Je lui dis mais là ça fait un quart d'heure que ça dure. Enfin, c'est pas, c'est impressionnant. J'avais jamais vu ça.
Après
c'est
moi j'ai rien à dire. Parce que je parle vraiment beaucoup tout seul aussi.
C'est mais des vraies conversations.
Juste anecdote très très rapide.
Ouais, vas-y.
Parfois ça turbine tellement dans mon cerveau et je suis dans la rue et j'ai tellement envie de parler, sauf que bon bah ça se fait pas socialement. Je prends mon téléphone pour faire genre d'être au téléphone.
Ah oui.
C'est très très grave. Hein, c'est très grave, mais ça fait du bien.
C'est
parce que sinon ça t'irrite. Enfin t'es frustré.
Bah parfois mais encore une fois c'est une question de j'ai l'impression d'avoir le cerveau en ébullition en fait et d'être en train de réfléchir, faut que ça sorte par des mots parce que si pour un peu cadrer ce que je suis en train de penser quoi.
Bah bon, je comprends, mais c'est drôle.
Le jour où j'ai dit ça à mes amis, je vous dis pas le silence de mort qu'il y a eu dans la pièce, c'était horrible. Enfin bref.
Jacqueline et ça marcherait pas de faire des notes. Enfin parce qu'en fait quand c'est pour l'extérioriser et t'as pas forcément besoin de retenir ce que t'as dit.
Non, j'ai pas besoin de retenir ce que j'ai dit. Non c'est vraiment une question de ouais, extérioriser. Ouais.
Ouais. OK, d'accord.
Voilà, fin de l'anecdote. Désolé.
Incroyable. Non, mais t'inquiète. Voilà, donc il y a aussi mon beau-père, mon mec, évidemment, et mes deux chats et notre chien. Langue Jambon, qui est le chien de ma mère, mais donc, bon, bref. Et, et en fait, j'adore passer du temps en Bretagne avec eux, tout simplement, parce que donc cette petite famille est vraiment la... Ah non, bah il y avait ma marraine, seigneur. J'avais oublié. J'ai vraiment la famille la plus marrante. Vraiment, genre, ma mère est déjà une meuf que je trouve exceptionnelle. Elle a 65 ans, c'est la femme la plus généreuse du monde. Elle a entretenu un de mes ex, bref, pendant 3 ans, elle lui a payé son loyer. Ouais, elle donne de l'argent à tous les gens tout le temps. Enfin, alors qu'elle est pas riche, juste, elle adore donner son argent, anyway. Et c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. Qu'est-ce que t'es intéressée, toi, ça va faire... Elle a vraiment le cœur sur la main, elle est super, elle est surtout super gaulerie. Et en fait, l'autre jour, j'ai essayé de faire un défilé de mode à ma mère,
à ta vie.
À ma mère, ma tante, et ma marraine. Et en fait, donc ma mère commence à défiler et tout. Et comme, je sais pas ce qu'elle fait, elle essaie de décrocher sa barrette pour faire un hair flip. Et là, elle se casse la gueule. Faut savoir que ma mère elle a jamais été très bonne danseuse et tout. Donc je pense que pour elle, la coordination des mouvements, c'est pas un truc qu'elle maîtrise de fou. Et c'est moi qui dis ça. Donc c'est vraiment pas pour me moquer parce que moi j'ai un peu le même souci, mais je tombe moins que ma mère. Et vraiment, elle fait ça et elle se casse la gueule avec son yinche dans les bras. Et franchement, le ralenti de ma mère avec son yinche de vieille dame, désolé, hein, c'est que c'est un. Mais c'est vrai, c'est un yinche de vieille dame, quoi. C'est un loulou spitz nain, ah oui, oui, bleu merle, allemand. Enfin, tu vois, tu fais pas plus chien de vieille dame ancienne jet-setteuse, tu vois. Et en fait, là, encore une fois... Alors là, j'ai eu une passion cette année pour le Rumicube, connaissez-vous ?
Le ?
Tu connais ? Fanny, qui est la productrice de ce podcast, le Rumicube, qui est un jeu de pions sur lesquels il y a des chiffres de couleurs différentes et il faut faire des suites de chiffres de la même couleur, etc. C'est passionnant. J'ai après joué à ça cet été. On ne m'arrêtait plus. C'est-à-dire que tous les soirs, je me faisais des grosses pintes de bière et avec ma tante de 80 piges, mon beau-père, ma mère et ma marraine de 70 ans, on se faisait des grosses parties de Rumicube.
Mais franchement. Mais ton mec, il était où?
Ah, bah, il était là aussi.
Je
le cite moins. Oui, oui, il a joué, il a adoré ça. Amaury, il est, c'est comme moi, c'est une vieille dame, donc franchement, il est ravi. Et alors, j'ai appris plein de choses sur ma marraine, qui donc a 70 ans, qui a été pendant 35 ans comme ma mère hôtesse de l'air chez Air France. Donc, quand elles sont ensemble, c'est des anecdotes et des aventures à ne plus savoir qu'en faire. Et aussi, avant, elle était actrice. Elle a tourné un truc qui s'appelle La Moule. Attends. La Moule Gigot, un truc comme ça. Un truc qui n'a aucun sens. Où elle est allée tourner en Alaska, où elle a dû montrer ses seins sur un ferry. Enfin, un truc extraordinaire. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est surtout ma marraine qui communique avec les animaux. Et j'en ai déjà parlé dans mon podcast 4 quarts d'heure. Et cette année, elle m'a encore énormément parlé de la communication animale. Et en fait, elle se vexe énormément quand on dit qu'on n'y croit pas. Parce qu'elle dit, écoutez, vous croyez... J'adore ce parallèle. Vous croyez bien au téléphone. Je veux dire, tu prends ton téléphone, Kaline, tu fais allô. Il y a bien quelqu'un qui te dit allô de, à l'autre bout du monde. Bon.
Et elle comprends me dit, pas le rapport.
Et elle me dit, il suffit de te brancher sur la bonne fréquence. Et c'est la même chose, en fait, avec les cerveaux des humains et des animaux. Donc, bon, bref. On en pense qu'on veut. En tout cas, elle se dit que si tu te branches sur le bon truc, tu arrives. Et donc, un jour, j'ai perdu. Enfin, c'est pas que j'ai perdu. C'est que la titounette, mon grand chat, s'était barré toute la nuit parce que j'avais pas fermé la porte. Bon, bref. Il s'est barré alors qu'il a pas le droit. Il passe la nuit à vagabonder. Moi, je m'en bats la race parce qu'en soi, je suis là. Bon, il fait ce qu'il veut. Et je sais qu'il finit toujours par rentrer. Et ma marraine s'est mise à la fenêtre de sa chambre. Et je la vois super concentrée et tout. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, elle me dit, ah, bah, le revoilà. Et donc le chat, il est vrai, descendait de la colline comme ça, qui est à côté de notre maison. Possible. Il descendait, elle me dit, bah tu vois, je viens de lui dire de rentrer à la maison. Et je lui dis, comment t'as fait? Et donc elle m'explique, à chaque fois un peu la même chose, en fait, t'es censée te créer une espèce de pièce mentale. Elle, c'est un gros coquillage, et donc dans son gros coquillage, elle se visualise avec les animaux, et donc elle essaie de convoquer les animaux à la rejoindre dans son coquillage. Et de là, elle discourt avec eux, quoi. Et donc là, elle lui a dit, écoute, peux-tu rentrer? Tout le monde s'inquiète. Et comme l'année dernière, déjà, elle m'avait dit, parce que Langue Jambon, le chien de ma mère, s'était retrouvé nez à nez avec un albatros sur la plage, et en fait, l'albatros avait l'air un peu mal en point, et le chien et l'albatros étaient restés, l'un face à l'autre, et Monica, ma marraine, a dit à Langue Jambon, Langue Jambon dit à l'albatros que c'est bon, il peut reprendre son envol, il faut qu'il prenne confiance en lui.
Mais c'est pas... Alors déjà, il s'appelle Langue Jambon. Bon, bah,
non, elle s'appelle Romy, en vrai, c'est moi qui l'appelle Langue Jambon.
Ah, j'ai eu peur.
Non, non, elle s'appelle Romy.
Moi, je croyais qu'elle allait me dire, elle a écouté leur conversation.
Non, 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 elle a juste dit... Non, ce qu'elle a appris, en revanche, mais ça aussi, je crois que j'ai déjà raconté, elle a appris qu'une de ses copines était enceinte par le lapin de sa copine. C'est son non, lapin mais... qui lui aurait dit
quoi
« Machine est enceinte ». Et Monica, un jour, va voir sa copine et elle dit « T'es enceinte ?» L'autre lui dit « Oui ». Elle dit « Bah, c'est ton lapin qui me l'a dit ».
Non, j'y crois pas.
Bref. Et donc, voilà. Et j'ai passé, franchement, mon meilleur été. Et mais franchement, pour moi, l'ultime moment de ces vacances, c'est quand j'ai joué au Time's Up avec toute ma famille et ma marraine. Donc le Time's Up d'aujourd'hui, ma marraine, elle a aucune ref. Enfin, franchement, c'est que des trucs de Game of Thrones, ouais. C'est que des trucs de pop culture. Et ma tante, qui donc a 80 balais, porte des slims blancs ultra moulants, des sweatshirts Mickey Mouse avec des Ray-Ban de toutes les couleurs. Elle est extraordinaire. On dirait vraiment qu'elle a 32 ans. Et elle a jamais travaillé, c'est un peu une ancienne jet-setteuse. Et bon, l'autre jour, elle me racontait d'ailleurs comment, quand elle était jeune, un jour, donc ils habitaient à Cannes, elle avait un pote qui lui avait dit, bah tu veux pas travailler dans mon agence immobilière? Elle avait dit,
oh là là,
si c'est une autre époque. Hein. Ouais, je veux bien essayer. Donc, elle y était allée, elle a tenu une journée et elle était là. Mais moi, ma chounette, je voyais tous les gens qui partaient à la plage avec leur cabas. Moi, je me suis dit, bah, je veux pas rester là. Et donc, elle a fait
un fume. C'est bien ce qui me semblait.
Ma chounette, elle m'appelle comme ça. D'ailleurs, hier, elle m'envoie, je vous jure, c'est vrai, elle m'envoie un TikTok.
Donc, elle a TikTok.
Elle a TikTok et elle m'envoie un TikTok d'une zouze qui est en train de danser. je vous jure que c'est vrai, hein, parce qu'après, parfois, les gens, ils me croient pas. Voilà, Poutouze, on dirait toi Machounette avec des émojis bisous. Oh et là c'est là, juste là, une zouze qui danse. Et en fait, super raciste parce que c'est juste une indienne, en fait.
Ah, c'est super. D'accord.
On dirait toi. J'adore Poutouze, elle est incroyable. Et donc, on joue au Time's Up. Et je veux pas jouer à ça parce que elle me dit, franchement, moi, je suis partante pour... Je peux la faire pendant une heure, ça va m'éraillé à la gorge. Mais... Je suis partante pour tout, mais elle dit à chaque fois, je me tape la honte. Et donc là, notamment, elle tombe. Elle nous dit oui. Alors c'est un groupe de rap. Ils sont... Donc elle trouve, elle fait oh oui bon, c'est un groupe de rap. Ils sont trois machin. Donc on cite tous les gens qu'on connaît et tout. Qui c'était? C'était Trio.
J'en étais sûre.
Moi aussi,
j'en étais sûre.
Incroyable.
Hilarant.
Et aussi.
Mais c'est qu'elles connaissent.
C'est ouais. Alors parce que ma mère a chanté derrière Trio dans une chorale. Bon bref, c'est pour ça qu'elle connaît. Sinon elle aurait jamais
ah,
su.
Ah la fameuse chorale.
La fameuse, exactement la fameuse chorale. Et en fait, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, et là, là ça a été extraordinaire parce que elle a dû mimer Fort Boyard. Tout est voilà. Et franchement, c'est pas très podcastique du coup, mais je peux pas trop bien raconter. Mais c'était très drôle parce que ça me fait trop plaisir de voir une meuf de 80 balais qui est ultra partante pour tout. Genre tous les soirs, on allait boire des coups au bar en bas. Elle venait boire sa petite bière. Le midi, elle s'ouvrait sa petite bière. Elle était ravie de boire sa bière et de fraîchette, comme elle l'appelle. Elle a TikTok, elle a Instagram. Toutes ses copines de son âge me suivent sur Instagram. C'est et l'autre jour, j'ai dit, ouais, ma tante de 80 ans, machin. Et elle a une copine qui l'appelle et elle me dit, Chounette, apparemment, tu dis sur tes réseaux que je suis vieille. Et je lui dis, mais qui t'a dit ça? Elle me dit, bah, c'est Sylvie qui m'a appelée pour me dire que t'avais dit qu'elle avait 80, que j'avais 80 ans sur Instagram. Et moi, j'ai pas regardé les stories aujourd'hui. Enfin. Incroyable, tu vois. Ma marraine paraît 70 ans quand ma mère se casse la gueule pendant le défilé de mode. Elle dit, bah non, c'est comme les jeunes sur TikTok qui font ça et ça. Ils connaissent plein de trucs en vrai.
T'as beaucoup de chance.
Ils se savent se servir des réseaux. Et oui, j'ai grave de la chance parce qu'ils sont ouverts à tout. Ma tante, tu peux parler d'écologie. Alors, bon, il y a du chemin à faire, mais quand même, tu vois, elle est prête à entendre que, bah, déjà, elle a fait de la merde toute sa vie et qu'il faut qu'elle repense sa manière de consommer, sa manière de consommer sa nourriture, sa manière de consommer du sopalin, qu'elle en fait un rouleau par jour, tu vois, je pense qu'elle fout avec le sopalin. Et voilà, mais franchement, à chaque fois, je passe un mois, mais à être morte de rire, et mon mec me dit, mais t'as vraiment la best famille, et c'est pas grave que vous soyez pas 50, vous êtes juste genre 5, et franchement, bah, c'est suffisant, vous vous mariez grave. Voilà, c'était ça mon kiff.
Non mais c'est merveilleux bien. Et je trouve ça sublime que tu sois chaque année ravie de les retrouver pour un mois complet.
Ah ouais,
j'ai une telle connivence quoi.
Ah ouais, c'est trop bien. Et parce qu'en plus ils me font pas chier, tu vois, la journée en fait, moi je fais ma life, je vais travailler, eux ils font leur life, on s'en fout, enfin chacun fait sa vie, personne se juge et on se retrouve pour l'apéro quoi, tu vois.
Et les liens du sang ça fait pas tout, enfin avoir une famille choisie avec que soit des liens sanguins ou des liens amicaux ou autres, c'est hyper précieux encore une fois.
Bien sûr, bien sûr. Et moi je pars toujours avec mes amis un petit peu, bah là le mois de juillet dans ma maison de campagne avec tous mes amis qui sont venus et tout machin, mais franchement ça m'épuise d'avoir mes amis en fait, parce que les amis bah faut leur parler, enfin faut les divertir tout le temps, tu vois, je veux dire
Non, ça t'es pas obligé Caline,
non mais
c'est... C'est toi qui te donne cet objectif toute seule.
Bah oui, je sais, mais je me mets trop la pression. Moi, je leur fais à manger de fou. Je veux qu'ils soient reçus chez moi comme si c'était un Airbnb qui me donnait de l'argent, alors que personne me donne l'argent et personne me rend le moins de service. Donc voilà. Mais là, franchement, en fait, et aussi, ça fait plaisir de revenir un peu, de re-être un peu un ado. Moi, quand je suis avec ma daronne, ouais. Je suis une ado complète. J'arrête pas de voler des trucs. Et après, je dis non, c'est pas moi qui l'ai pris. Et
tu vois, en l'ayant autour du cou.
Exactement. Et après, elle pète un câble. Et j'adore que ça fait 20 ans qu'elle me dit. Arrête de sortir toutes les serviettes de bain, t'as besoin que d'une serviette de bain en fait, et qu'à chaque fois je continue à les sortir et qu'à chaque fois elle me hurle dessus, je sais pas, il y a l'enfant
un peu
en moi
toxique,
qui... Non mais je sais pas, ça me renvoie à mon adolescence et ça me fait plaisir d'être une... J'ai dû être une adulte très jeune parce que j'ai eu des parents qui étaient pas beaucoup là du fait de leur métier et du fait que mon père, quand il a migré en France, ça a été très compliqué pour lui de trouver du travail. Il a eu plein de petits boulots et plein de petits boulots la nuit. Et de fait, j'ai dû me débrouiller, me faire à manger, etc. Très tôt. Puis en plus, je suis toute seule. Moi, j'ai pas de sœur ni de frère, etc. Donc, j'ai été une adulte très jeune. Et en fait, de reprendre une position d'enfance, l'âge d'ado, maintenant que je suis adulte, je trouve que ça a des vertus thérapeutiques qui sont peut-être bizarres, mais qui en tout cas, moi, sont avérées dans mon cas, quoi.
Bah, voilà. Si ça fonctionne et que ça te procure de la joie, c'est l'essentiel, quoi.
Exactement.
Non, mais ouais, ma mère, elle sait même pas ce que c'est Facebook, donc j'ai pas lui parler d'Instagram et TikTok,
ah,
quoi.
Ouais. Ah ouais.
Et elle m'appelle dès qu'elle doit faire un copier-coller dans un mail pour que je lui dise comment faire une pièce jointe.
Ah ouais.
C'est vraiment infernal. Enfin, elle est vraiment
t'as la
larguée,
patience de le faire.
Non, bah non, je le raccroche tout le temps au nez.
Oh, wow.
On est trois et j'ai un petit frère qui a énormément de patience et ils s'entendent très bien. Et moi, je suis trop impatient en fait. Je peux pas. Je pète des plombs. Qui fout tout en accéléré. Enfin, je peux pas écouter ma mère qui comprend pas un truc pendant une demi-heure. Enfin, c'est plus qu'une demi-heure en vrai. Je répète tout le temps la même chose. Mais en vrai, chez elle, elle a un dossier. J'ai pas la patience de lui parler, mais j'ai la patience d'écrire des choses. Je lui fais des tutos pour tout. Mmh. Et donc, en fait, elle a juste à choisir un tuto que je lui ai écrit à la main dans un dossier. Comment faire une pièce jointe? Comment ouvrir ton intranet de professeur? Comment faire ci? Et donc, en fait, elle cherche. Elle a tout plein de tutoriels.
Attends, les profs, en plus, ouais. Ça doit pas être facile. Ils doivent gérer les outils numériques un peu.
Ah, mais elle est galère. Enfin, chaque année, je lui réexplique comment tout fonctionne et tout. Enfin...
La pauvre.
Et en fait, elle ne sait pas. Enfin, c'est une question d'intuition qui est peut-être différente, tu vois, mais pour elle, c'est pas du tout intuitif tout ça. Ouais. Et du coup, elle doit apprendre par cœur, mais elle n'arrive plus à apprendre par cœur. Et donc, en fait, à chaque fois, elle consulte le tuto pour mettre une pièce jointe. Et parfois, elle a la flemme, du coup, elle m'appelle, du coup, j'essaye pendant 30 secondes, après, je craque, je dis appelle Alan, et du coup, elle appelle Alan, mon petit frère, enfin bref. C'est infernal. Je vais pas raconter toute sa vie, elle est adorable, mais elle est pas très connectée.
Comment elle s'appelle ta maman?
Maggie.
Trop bien, je l'adore.
Et Maggie, elle est mignonne, elle est adorable, mais elle est pas très internet, quoi.
Elle parle de quoi, ta mère?
Biotechnologie.
Waouh.
Elle n'était pas nutritionniste?
En fait, elle enseigne plein de matières, dont la nutrition. D'accord. Ça fait partie des biotechnologies qu'elle enseigne. Mm. Mais c'est un nom pompeux pour dire des trucs pas forcément très très compliqués. Hein.
Ah ok.
C'est un peu SVT quoi.
Ok.
Waouh. SVT, c'était trop dur genre.
Ah moi j'étais trop.
Les chaînes de molécules.
Moi j'avais 20 de moyenne au collège. Ouais.
Bah ta mère elle est prof de SVT.
Et je corrigeais ses copies depuis que je suis au collège.
Arrête.
Je corrigeais les copies de ses élèves et j'aimais trop écrire au rouge et mettre 0.
T'as vraiment toujours été une petite peste.
Non mais je voulais trop être prof, voilà.
Juste pour mettre des zéros en rouge.
Oui.
Je comprends.
Et c'est la transition parfaite pour dire que je vais d'ailleurs devenir prof à la rentrée, là, dans une école de mode. Je vais passer en 4-5e chez Mademoiselle et enseigner les vendredis à Chardon-Savard, qui est une école parisienne.
J'en mets.
Je suis trop content, ouais.
Mais c'est super, félicitations.
J'ai hâte de mettre
trop
des zéros.
Bien.
Mais ouais, c'est hyper cool, ouais. Je
tu vas enseigner quoi?
Je vais être prof d'écriture.
Okay.
Pour des futurs journalistes et communicants.
J'adore, c'est trop bien.
Et je vais leur dire oui, comment faire une bonne interview, comment mener une interview, comment écrire un script de vidéo, comment faire des papiers de fond, d'analyse, trouver des expertes, comment fact-checker des choses, croiser tes sources, etc. Plein de bonnes pratiques. Mm-hmm. Et aussi comment s'exprimer, affirmer sa singularité. Mais ça va être différent de toi, ou ça va être toi, c'est plus de l'écriture au long format.
Ah, tu veux dire mon atelier?
Ouais, t'es
atelier
d'écriture qui est.
Oh oui, ça n'a rien à voir. Moi, j'enseigne rien. Moi, c'est. Non. Non, mais.
Je suis sûre que c'est pas vrai.
Non, mais si, en fait, je leur apprends plein de trucs. Mais moi, je leur apprends à écrire de la fiction. C'est à libérer vraiment leur imagination. Tu vois, c'est moins.
C'est plus créatif.
C'est pas là ce que tu fais. Moi, je saurais pas le faire. Enfin, j'ai déjà oublié tout ce que j'ai appris à l'école de journalisme. Jamais voulu être journaliste. Enfin, voilà quoi.
Bah, moi non plus.
Mais c'est passionnant, c'est génial.
Ouais, je suis grave content. Je suis hyper heureux. J'ai un peu le syndrome d'imposteur, mais ça va le faire. Parce que en vrai, je vais apprendre ce que je fais au quotidien.
Mais bien sûr.
Ça va le faire.
Et tu seras excellent, j'en doute pas une.
Je suis pas certain.
Ah si, je suis sûre.
Excellent et antipathique, Manie.
Ah oui, vraiment.
J'ai hâte d'être tyrannique pour rien.
J'adore.
Alors, mon kiff cette semaine, je m'introduis.
Ah, c'est pas ça?
Non, c'est pas ça. Je vais pas commencer, pense-tu. Mon kiff cette semaine, c'est une pièce de théâtre qui n'est pas vraiment une pièce de théâtre. C'est à la fois du cirque, de la comédie, du cinéma, des émotions pures sur scène. Ça s'appelle Entre chien et louve et c'est joué depuis le 1er septembre jusqu'au 31 décembre au Bon Marché, le grand magasin.
Ah bon ?
À Paris, ouais. C'est la deuxième fois qu'ils font quelque chose comme ça. Donc l'an dernier, en 2022, c'était au Bonheur des Dames. Et c'était du théâtre immersif, donc à travers tous les rayons du Grand Marché, tu menais une enquête en tant que spectateur, spectatrice, et du coup t'essayais de trouver qui a tué machin. Et
tu c'était... pouvais pas voler des vêtements?
Alors je peux pas dire que j'ai essayé, mais c'était très compliqué.
Okay.
Donc ce n'était pas possible, non.
Okay.
Il y avait beaucoup de vigiles, et beaucoup d'antivol. Mais c'était formidable, c'est vraiment le théâtre immersif, si vous avez jamais tenté, c'est génial, enfin c'est fou. C'est une enquête policière géante, interactive, avec plein de comédiens et comédiennes géniaux, brillants. Et c'était surtout un décor, mais immense, à l'échelle du Bon Marché, quoi.
Incroyable.
Et même dans les sous-sols du Bon Marché. Dans les caves et tout, un peu humides, c'était fou. Ils ont exploité le lieu à 100%. Donc ça, c'était en 2022. Et cette année, 2023, vous pouvez trouver au Bon Marché, donc, Entre chien et louve. Et donc, c'est le soir. Les jeudis, vendredis et samedis soirs, à partir de 21h, en gros, il y a la pièce qui commence. Et c'est une pièce, je sais pas si vous voyez le Bon Marché, c'est un grand magasin mythique à Paris, qui est magnifique, qui est rive gauche. Et en fait, il y a des escalators qui se croisent, qui s'entrecroisent sur plusieurs étages, qui sont magnifiques. Je n'ai aucun vocabulaire, j'arrive pas de répéter même avec. Mais en gros, devant ces escalators mythiques, a été mis en place une scène verticale. Et en fait, se joue sur cette scène qui prend plusieurs étages, tout un drame à travers différentes storylines, différentes époques, pour différents personnages. Donc, en gros, c'est le cirque Le Roux, qui est un cirque contemporain, qui est une troupe, en fait, qui a été créée en 2014, qui se produit. Donc, il y a 8 protagonistes qui évoluent sur cette scène. Donc, il y a très peu de surface à l'horizontale, à plat, au parallèle du public. Et beaucoup de choses qui se passent en hauteur. Et en fait, cette scène verticale mime une espèce de façade d'immeuble, en fait, d'où émergent certaines fenêtres qui s'ouvrent et qui présentent des scènes. Mais en fait, ces fenêtres, elles sont évolutives. Enfin, toute cette scénographie verticale est évolutive, donc elle évolue, les décors changent. C'est magnifique, enfin, c'est très, très poétique. Et en fait, on découvre une histoire qui mêle plusieurs époques, comme je l'ai dit. En gros, il y a 3 protagonistes. Une femme qui s'appelle Louise, qui évolue en 1850. Une autre qui s'appelle Maud, qui évolue en 1960, et un autre qui s'appelle Alex, qui évolue aujourd'hui dans le monde contemporain. Et en gros, l'histoire commence où tu comprends que Alex est dans un appartement et il découvre des journaux intimes de femmes qui ont vécu dans cet appartement par le passé. Et il essaie de comprendre leur histoire, et à mesure qu'il se plonge dans ces journaux intimes, il se rend compte qu'il est happé par leur histoire. Et en fait, en même temps qu'il les découvre, donc se joue l'histoire de ces femmes-là à l'époque. Donc elles ont des costumes qui représentent leur époque et on comprend leurs drames familiaux, enfin c'est des histoires d'amour qui sont un peu tragiques et en même temps il y a beaucoup beaucoup de comédie dans tout ça. Et comme c'est une troupe d'artistes circassiens et circassiennes, c'est incroyable, enfin il y a énormément d'acrobaties.
La voltige.
Haute voltige. Et en plus de ça, enfin c'est dingue d'avoir un décorum comme ça qui est le bon marché, et c'est une prouesse technique en plus d'une prouesse poétique, parce que vraiment le texte est magnifique, les histoires sont sublimes aussi. Et en plus de ça, l'intensité dramatique est là, parce que comme la scène horizontale est assez petite, t'as souvent les artistes circassiens et circassiennes qui sont très proches de toi, donc tu ressens leurs émotions, et ils jouent très très bien, enfin, c'est impressionnant. Et surtout, il y a beaucoup d'histoires qui s'entrecroisent, quoi. Donc d'un point de vue écriture, c'est fou, et d'un point de vue chorégraphie aussi, c'est fou, enfin, je décrirais ça comme une tragicomédie circassienne. Et en gros, j'ai dit qu'il y avait 3 protagonistes principaux, mais en fait, il y a 8 artistes en tout sur scène. Et souvent, c'est les compagnons et compagnes des personnages. Et donc, voilà, on devine une espèce de drame. Enfin, je ne vais pas tout vous spoiler, mais il y a aussi...
Ça a l'air incroyable, ouais.
C'est complètement fou. Enfin,
attends, je peux poser une question.
Oh, dis-moi.
Mais du coup, les décors, ils les enlèvent tous les
jours? Non.
Ils restent...
Ah oui, pardon. Oui, ils les enlèvent tous les jours. En gros, ils installent la scène entre le moment de la fermeture et le moment de l'ouverture du spectacle. Donc, généralement, le bon marché, ça ferme à 20h et ils installent la scène très rapidement à 21h. Oh. Du coup, ils mettent des chaises comme ça devant l'espace beauté. Donc, c'est au rez-de-chaussée du bon marché. Mm-hmm. Là où il y a tous les parfums, le maquillage et tout. Ils installent des chaises et ils dressent cette scène immense qui est évolutive, du coup, et qui permet de donner naissance à plusieurs décors différents dans différentes époques. Parfois, ça va être un bal, parfois, ça va être un décor un peu années 60 et tout. Un bal dans les années 1850. Et ce que j'allais vous dire aussi, c'est qu'en fait, on devine aussi des histoires de violence conjugale, en fait. Mais c'est pas des déclencheurs violents. Enfin, il y a rien de violent qui se passe sur scène. C'est suggéré. Et donc, je pense pas qu'il y ait besoin d'être un public ultra avertif, hein. Mais c'est très, très grand public. Je pense que même des enfants peuvent y aller. Je dirais qu'à partir de 10 ans, c'est très intéressant. Et voilà. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que oui, il y a beaucoup d'acrobaties. Il y a de la barre russe, par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Non.
C'est en gros, Kalindi et Ariane, vous étiez d'une part et d'autre de la pièce et on vous mettait une barre sur l'épaule. Donc, comme une barre. Et t'as quelqu'un qui saute dessus, qui fait des acrobaties et qui tient comme sur un fil, en fait. D'ailleurs, il y a un peu de funambulisme.
Wow.
Et du coup, c'est incroyable parce que. Ouais. Et
putain.
Du coup, sur la barre russe, en gros, t'as une femme qui va... En fait, la barre, elle est relativement souple. Du coup, en fait, tu peux propulser quelqu'un comme sur un trampoline.
D'accord.
Et en fait, il y a une des artistes qui saute, mais tellement haut sur cette barre qui est tellement étroite. Et tu te dis, mais elle va jamais se réceptionner comme il faut. Et si elle le fait, et elle doit faire ça, genre, plusieurs soirs de suite. Enfin, wow. Plusieurs fois dans la pièce qui dure 1h20. Et elle fait ça plusieurs soirs par semaine. Enfin, c'est incroyable, vraiment, d'une précision, mais folle. Et moi, qui suis un grand fan de spectacle vivant, bah, je trouve ça... extraordinaire de générosité, de prouesse, de talent, de virtuosité, de faire ça tous les soirs, quoi. En plus de toute l'écriture dramatique qui est magnifique. Et ce que je voulais vous dire aussi... Donc,
entre chien et louve, hein.
Entre chien et louve, oui. Et donc voilà, il y a beaucoup de portée, d'acrobatie, de contorsionnisme, de jeu d'équilibre. Et voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que la chorégraphie est signée de Maria Carolina Vieira, la dramaturgie de Léonard Kahn, la scénographie, donc le Cercle Roux, Benoît Props et Espace et compagnie, et c'est une mise en scène du Cercle le Roux et de Charlotte Salio. Et
je suis sur les tarifs.
Et le tarif, c'est un peu cher. C'est le bon marché.
Je vous le
c'est à partir de 50 euros.
Ah oui, quand
là,
même.
Je vois à partir de 75.
Ah, ça a augmenté.
Ah, oui, quand même.
Ah là, ça dépend des dates. Il y a 50 ou 75.
Parce qu'en fait, il y a des spectacles plus t'approches de Noël, plus ça peut. Enfin, en tout cas, il y a une soirée spéciale pour le 31 décembre, par exemple. Et je pense qu'il y a des dates qui sont plus demandées que d'autres. Ouais. Il y a différentes catégories aussi.
Ouais. Et donc, chant, mais.
En vrai, c'est cher, je vous l'accorde, mais c'est un spectacle qui est bluffant, qui en met plein la vue. Et si vous voulez vous faire plaisir une fois dans votre vie, ça vaut le coup, quoi.
Grave.
C'est incroyable. Bon, j'étais scotché du début à la fin. Il y a des moments où j'étais en apnée, genre je pouvais plus respirer parce que j'avais trop peur. Et à cause des acrobaties et grâce à la dramaturgie, enfin, t'es happé par le spectacle et ça a coupé le souffle.
Et voilà. Tu l'as très bien vendu.
Je récapitule, c'est Entre Chien et Louve au Bon Marché et c'est une coproduction du Cercle Le Roux et du Bon Marché.
Eh ben, ça a l'air chiant, mais merci beaucoup, Anthony.
Merci à vous pour cet épisode.
Très long.
C'est la première fois que j'anime.
Très long.
Très long, je ne sais pas.
1h40.
Ah oui,
40,
ah oui, on est désolé. Eh ben, vous êtes servi pour le retour de LMK.
C'est clair. Vous êtes trop content.
Lâchez plein de commentaires. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur toutes les plateformes. On peut même le faire sur Spotify. Donc, voilà. Et à très vite, hein. En attendant,
touchez-vous bien, Kiki!
Oh waouh, Kalindi. Merci, bisous les LMK.
Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.